Un mot pour vous prévenir que l'émission On va gêner d'aujourd'hui a été exceptionnellement enregistrée ce matin. Laurent Ruquier n'évoquera donc pas la mort du réalisateur et producteur de cinéma Claude Berry que l'on vient d'apprendre. On retrouve Laurent Ruquier et son équipe.
Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez pouvoir profiter de Christine Bravo,
ouais.
Michel Bernier,
ouais.
Fabrice Éboué,
ouais.
Titoff,
ouais.
Jérémy Michalak,
ouais.
Et Pierre Bénichou.
Ouais.
Oh, vous êtes tous en forme malgré le froid, parce que Europe 1 n'est pas chauffé le week-end,
non.
Il faut
non.
le savoir. Quand on arrive le lundi.
Chauffage. Pour faire des économies d'énergie.
Non, c'est pas pour ça, c'est pour conserver Daniel en fait dans le public.
Mais...
C'est-à-dire que s'il fait trop chaud, on a peur qu'elle supporte pas.
Daniel, notre auditrice qu'on appelle Hibernatus dans le métier. Parce qu'elle est là depuis l'ère glaciaire. Dites, vous revenez de Marseille, vous, Titoff ?
Oui.
Il va faire froid là-bas.
Ah, c'était extraordinaire.
Jamais vraiment. Vous n'aviez vu ça ?
Non, moi, une fois, quand j'étais petit, il y avait eu un peu de neige. Alors, bon, on,
il y a 14 ans. Moi, ma science est toute neuve. On sait qu'il n'a pas neigé comme ça sur Marseille depuis 14 ans.
Voilà. Ah, mais c'était extraordinaire parce que j'étais en plein tournage, donc déjà j'ai mis 3 heures pour arriver sur le tournage. Et après, du coup, j'étais obligé de. Je pouvais pas rentrer chez moi. Mais parce que ma mère, elle habite un peu en dehors de Marseille, donc j'ai dormi sur le Vieux-Port. Et c'était. Non, le Vieux-Port, sous la neige, comme ça, c'était extraordinaire parce que c'était 30 centimètres de neige.
Les Marseillais, ils tournent qu'à Marseille, en fait.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu pars en tournage à Marseille.
Comment ça, à chaque fois? C'est le même tournage depuis.
Ah, c'est la même chose.
C'est un long tournage.
Vous n'avez pas vu en photo, en tongue, ce cahier à Marseille?
Non, j'ai pas vu. On faisait croire que c'était.
C'est un documentaire folklorique sur
la province.
Et les Marseillais, ils n'étaient pas trop désorientés quand même. Par rapport à la neige. Je me demande si vous étiez vraiment à Marseille.
C'était le gros bordel. Et moi, je ne fais pas de politique. Il y a eu beaucoup de critiques auprès de la mairie en disant oui, ils pouvaient prévoir, il fallait déneiger.
Et
franchement, c'est vrai que je crois que c'est Godin qui a dit ça. Il a dit ni à Montréal ni à Moscou.
Oui, bah oui.
C'est pour une fois que ça arrive. Ça a été bloqué pendant 2 jours. Voilà, les enfants ne sont pas allés à l'école. Tout le monde, il y a eu une atmosphère incroyable. Voilà, ça a duré 2 jours bloqué où toutes les passerelles. Voilà.
Pareil l'an dernier quand il y avait eu du soleil à Lille, ils ont bloqué la ville.
Ils ont eu super peur.
J'ai des mails. Tiens, je prie pour que Christine Bravo soit à vos côtés aujourd'hui, non pas parce que je l'aime bien, mon préféré c'est Stevie, mais parce qu'elle ressemble incroyablement à ma tante. Du coup, avec mes cousins, on a décidé de lui offrir un groupe sur Facebook. Ma tante ressemble à Christine Bravo.
Ah donc c'est le neveu de Marine Le Pen alors.
Ma tante.
Un autre mail qui concerne pas Christine cette fois, qui est signé Robert et qui vous est destiné, cher Fabrice. S'il vous plaît, changez-nous, monsieur Éboué. Ces vannes déplacées deviennent insupportables. On peut rire de tout, certes, mais avec talent. Je vous l'ai déjà dit, n'est pas Bénichou qui veut.
Ah, c'est Robert, décidément.
Ah, il t'en veut. Je sais pas ce qu'il a contre toi, mais il a quelque chose.
Je t'avais dit de pas l'envoyer. Écoute, arrête. Je parle à mon frère, oui.
Bonjour Laurent, je vous remercie pour le fou rire que j'ai eu hier soir en écoutant le podcast sur la question politiquement incorrecte sur la roue ayant eu un léger accident avec sa bombe de lac. Cela faisait longtemps, je n'avais pas autant ri et pourtant je rigole beaucoup. Bonne année à toute votre équipe. Ça, c'est quelqu'un qui a apprécié, mais en revanche, il y a quelqu'un qui n'a pas apprécié du tout.
Ah.
Madame Bravo, il serait temps que vous demandiez des excuses publiques au peuple roumain. Vous avez oublié vos origines espagnoles. Notre diplomatie ne nous défend pas et elle ignore que les Tziganes sont le peuple le plus pauvre d'Europe. Vos propos trahissent une inculture concernant mon peuple et je vous souhaite d'aller 5 minutes en Roumanie rencontrer des gens plus dignes que vous. C'est étonnant que monsieur Ruquier tolère un tel propos. Moi-même, je suis étonné, madame, je vous le dis. Mais vos collègues devraient essayer de vous ouvrir les yeux. Vous persistez, vous signez. Oui, vous êtes raciste. Vous démolissez les Roumains. J'attends une explication rationnelle à une telle moquerie à l'échelle nationale. Nous sommes très, très blessés. Alors,
non,
Christine.
Moi, je trouve que c'est vraiment exagéré, cette lettre. Oui. Mais il y a du vrai.
Vos excuses.
Ah non.
Comment ça, non?
Ah bah non. On est dans une émission d'humour.
Ah bah justement.
Pas plus les Roumains que les autres.
Qui allait dire.
Bon, enfin, vous pourriez dire un mot gentil pour les Roumains qui nous écoutent.
Mais j'aime bien les Roumains.
Bon, que c'est un peuple sympathique.
Qui font la manche de manière originale.
On s'en sortira pas.
Oh non, mais par contre, oui. Tout vient de vous, hein.
Ouais, ce qui est drôle, c'est ça, c'est que c'est Christine qui se prend plein de trucs dans la gueule, alors que tout le monde en a rajouté.
Il y a des dérapages dans cette émission, c'est, vous en êtes le principal fautif. Vous êtes une sorte de diablotin qui nous emportait parfois sur des terrains un peu.
Il a marabouté Christine.
Non, c'est vrai, Pierre.
C'était une émission d'humour au départ. Ouais. Maintenant, c'est devenu une émission de grossièreté.
Je signale que quand même, c'est Éboué qui a répondu à la question. Elle s'est fait couper une jambe pour pouvoir travailler. C'est pas moi. Je veux quand même remettre.
Oui, mais Fabrice Éboué, on est habitué à ces horreurs. Vous, les gens pensent que vous êtes quelqu'un de bien.
Ah bon.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Nous avons au téléphone Lucille de Toulon et Mario, qui, lui, nous appelle depuis Austin, au Texas. Je vais commencer par Lucille, puisque Mario peut bien patienter, c'est lui qui paye. Lucille, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites à Toulon ?
Je suis étudiante en tourisme durable.
Étudiante en quoi ?
Tourisme durable.
En tourisme durable.
Ça, tu pars en vacances très longtemps, quoi.
Ça veut dire quoi, le tourisme durable ?
C'est perpète.
C'est l'écotourisme, le tourisme solidaire.
Le tourisme écolo.
Ah bon ?
Voilà.
Ah bon, moi, je croyais que c'était 7 mois de vacances, le tourisme durable.
C'est par exemple partir à la campagne dans un gîte rural.
Oui, voilà, ou le tourisme solidaire, partir puis participer à des projets de développement en même temps.
Non, mais c'est un beau métier,
oui.
Lucille.
Bah oui, je pense.
Attention, nous allons appeler les États-Unis puisque là-bas nous attend notre ami Mario. Bonjour Mario.
Bonjour Laurent.
Qu'est-ce que vous faites à Austin ?
Je suis ingénieur en télécommunication.
Oh, mais vous avez un accent québécois, on dirait.
Je suis québécois.
Ah ben voilà. Ceci explique cela. Vous êtes un québécois qui nous écoutait aux États-Unis. Et pourquoi vous nous écoutez alors ? Puisque, comment vous connaissez l'émission ?
J'imagine la première réponse, c'est parce que je vous trouve pas trop emmerdant.
Ouais.
Et, j'écoute l'émission en podcast.
La réciproque n'est pas vraie pour l'instant.
C'est salaud.
Oh, ça, c'est sympa, ça.
Vous n'êtes pas réveillé, Mario, hein ?
Ben, il est quand même 2h30, si.
À 2h30, c'est ça, vous êtes en plein décalage.
Ah, oui. Il est en pyjama, Mario. Là.
Lucille, vous avez vos chances hein, pour combattre Mario dans la question qui va venir. Qu'est-ce que vous faites, vous m'avez dit, à Austin ?
Ingénieur en télécommunication.
Ingénieur en télécommunication. On va essayer de vous réveiller avec la question qui vient, mais alors je ne sais pas comment vous allez faire pour répondre, parce que comment vous allez avoir la réponse à cette question depuis Austin, au Texas ? Là, Lucille a ses chances, à moins que Lucille, évidemment, soit, on va dire, devancée par un des 6 chroniqueurs ici présents. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end qui n'était pas arrivé depuis le 2 décembre 2000 ? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end qui n'était pas arrivé depuis le 2 décembre 2000 ?
C'est un rapport avec le froid ?
Pas du tout.
C'est un rapport avec le sport ?
Avec le sport.
C'est un rapport avec le Vendée Globe ?
Non.
C'est un rapport avec le foot ?
Avec le foot, oui.
Alors, c'est ah oui, la tôle que s'est pris le PSG ce week-end. C'est 4-0.
4-0, il n'avait pas perdu avec 4 buts d'écart depuis le 2 décembre 2000. Bonne réponse de Titoff ! On vous a pas entendu faire une seule proposition, ni Lucille, ni Mario.
Vous avez bien fait d'appeler.
Le foot, non, le PSG, je ne connais pas vraiment.
Bah oui, mais enfin là, il fallait tout réviser, Lucille.
C'est-à-dire qu'on a très peu de questions sur le tourisme durable ici. Hein.
le foot durable, peut-être.
On vous embrasse, Lucille. Continuez à nous écouter, Mario.
Merci.
Depuis Austin, au Texas, et surtout, bon réveil. Merci à tous les deux.
Et on va gêner, continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, ses complices.
Et oui, le PSG humilié, hein, c'est le titre du Parisien ce matin, ouais. Humilié à Bordeaux, 4-0.
Comment tu dis ?
Humilié.
Ah.
Le Havre, j'ai pas vu combien vous étiez au classement. Là.
J'ai regardé le match samedi soir.
Alors,
mais on a joué à 9.
Mais pourquoi ?
On a eu 2 expulsés.
Contre non. Qui c'était contre...
Déjà qu'on a du mal à 11, t'imagines à 9.
C'était contre qui le Havre ?
C'était contre... Merde, j'ai oublié déjà.
C'est pareil. Hein.
Toulouse.
Ah, d'accord.
Contre les Toulousains. En plus, notre goal arrête un pénalty. En plus, le pénalty d'ailleurs sur lequel le premier joueur du Havre se fait expulser sur carton rouge. Et puis le deuxième joueur qui se fait expulser, c'est parce qu'il a eu un deuxième carton jaune dans le même match. 2 cartons jaunes en un seul match, c'est expulsion. Et c'est un joueur qui vient d'arriver, qu'on vient d'acheter, enfin,
c'est con.
Qu'on vient de nous prêter,
alors
qui vient de Bordeaux. C'est con, il vient d'arriver, c'était son premier match et il va pas jouer pendant 3 ou 4 matchs.
Il faut le renvoyer.
Je pense qu'on va faire ça.
Donc il vous rembourse.
En attendant, on est toujours dernier.
On a perdu combien ? Enfin, on. Vous avez perdu combien ?
On a perdu 1-0, ce qui est pas mal, 9 contre 11.
Ah, bien sûr, 9 contre 11, contre normalement. Ça...
Moi, je dis, on devrait nous donner le match gagnant.
Moi, je trouve aussi.
Et alors, le but de Gourcuff, là, parce que tout le monde entend dans la presse.
Le troisième but de Bordeaux, marqué par Gourcuff, est un, peut-être un des plus beaux buts que j'ai vus de ma vie.
Toi, également, aussi, également. C'est un chef-d'œuvre. C'est du soir, mais là, à ce niveau-là, quand c'est artistique, quoi, c'est de l'art.
Il a tourné à 180 degrés.
C'est du Zidane, c'est du Ronaldinho, c'est-à-dire qu'il fait un râteau comme ça, une espèce de passement de jambes, le ballon reste collé au pied.
Une roulette.
Une roulette dans la, il met dans le vent deux, trois défenseurs parisiens.
Comme s'il tenait le ballon avec les mains. Vous savez ce que disait François Giroud, un grand joueur de football, c'est quelqu'un qui a des mains à la place des pieds et qui a des yeux derrière la tête.
Ah oui.
Mais c'est vrai, on a l'impression qu'il fait avec des mains, quoi. C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire.
L'équipe de Tchernobyl devrait être en finale de la Coupe d'Europe, avec ce que vous dites. Une autre petite question, si vous le voulez bien, concernant cette fois la garde des Sceaux, Rachida Dati. Il ne faudrait pas qu'une décision personnelle mette en danger un acquis social. Qui a fait cette déclaration à propos de Rachida Dati?
C'est Pécresse.
Non, c'est pas Valérie, c'est Royal.
C'est Fadela Amara.
Non, c'est Fadela Amara. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
J'ai pensé, mais...
C'est une autre ministre du gouvernement qui normalement devrait la soutenir, Fadela Amara, qui a été un peu choquée, a-t-elle dit sur France 2, un peu choquée par l'attitude de Rachida Dati, qui pourrait remettre en cause les acquis sociaux. Non, Ségolène Royal, elle, c'est le contraire. Elle a plutôt soutenu Rachida Dati, mais en profitant pour tacler, Sarkozy. Vous l'avez vu, Nicolas, Sarkozy.
Mais oui, mais elle a raison. Elle est revenue 5 jours après parce qu'elle était obligée de revenir.
C'est ce que dit Ségolène Royal.
Parce que, effectivement, quel choix Sarkozy pouvait attendre avant de mettre cette réforme sur le tapis aussi précipitamment. Et une bonne femme qui a peur de perdre son boulot, oui, elle retourne bosser 5 jours après.
Mais non, ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Je trouve que de lui dire qu'elle fait ça pour montrer que, je sais pas combien de jours, c'est trop comme congé maternité et qu'il faut au bout de 5 jours que tout le monde revienne, c'est ridicule.
Pas ça pour ça.
C'est ridicule. Deuxième chose, dire elle était obligée d'y aller. C'est ridicule aussi, t'es pas obligé d'y aller. Elle a que si on a une chose aussi intéressante à faire que d'aller présider une grande réforme de la justice quand on est garde des Sceaux, évidemment qu'on se lève plus facilement de son lit de maternité que quand c'est pour serrer des boulons dans une usine. Et c'est ça le truc, là, la différence est sociale. Elle n'est pas du tout ni politique, ni de plan de carrière.
Et t'es obligé, déjà que le gosse n'a pas de père, si tu veux, si en plus sa mère se retrouve au chômage, il va finir drogué homosexuel à tous les coups.
Ah bah dis donc. Je vous remercie. J'ai toujours connu le nom de mon père et ma mère n'était pas au chômage, monsieur Éboué. Enfin voyons, vous rendez compte un peu.
Pourquoi tu te drogues?
Ah ça c'est drôle. Alain Souchon et son parachute doré, c'est la dernière chanson extraite de son album Écoutez d'où ma peine vient.
On va gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce lundi, Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Christine Bravo, Tito, Fabrice Eboué et notre Jérémy Joujou Michalak.
Europe 1, la question ultra difficile.
Même Michalak ne peut pas y répondre.
Eh oui, ultra difficile. Alors attention, vous êtes prêts les uns et les autres. Ouais. Qui a-t-on pu voir à une conférence de presse avec un collier de 427 diamants d'une valeur de 3,5 millions de dollars?
Une actrice?
Non.
Allez, change ton jingle, Serena Williams.
Oh putain. Serena Williams, bonne réponse de Joujou. Vous lisez L'Équipe aussi maintenant?
Non, c'était pas dans L'Équipe que j'ai lu ça.
Ah bah alors, merde, c'est le titre de L'Équipe.
C'est dans Bijou
Les
Magazine.
Diamants, ouais. Dans Bijou Magazine,
c'est ça, ouais.
Dans Joujou Magazine. Dans, ouais. Les diamants sont éternels. Serena Williams a eu peur de porter ce collier pendant le match, mais elle y a pensé un temps. Pendant le match, elle arborait quand même un autre collier avec un joli S en diamant sur une chaîne. En tout cas, elle a gagné 6-3, 6-7, 7-5, malgré les bijoux qu'elle portait, qui n'étaient manifestement pas trop lourds. Mais elle n'a pas osé porter le collier à 3,5 millions de dollars, a-t-elle dit, parce qu'elle dit, imaginez que, je sais pas, pendant le match, voilà, mon collier tombe, des diamants à 3,5 millions de dollars sur le court, ça aurait fait mauvais effet. Voilà.
C'est rare de mettre un collier à 3,5 millions pour jouer à une partie de tennis, quand même.
Ben, elle y a pensé. Je vous jure, elle l'a dit.
C'était alors sur terre battue ou sur du dur?
Non, c'est du dur, je crois.
Je gagne bien ma vie, mais je n'avais pas envie de sortir 3,5 millions de dollars pour rembourser le bijou que j'aurais explosé.
Ah, remboursé.
Vous vous rendez compte, si j'avais plongé, cassé le collier avec tous les diamants qui auraient roulé partout sur le cours.
Ah oui, donc c'est un collier prêté.
On nous a tous prêté sans des arrêt. Trucs de Monoprix, mais, bah,
moi j'ai des trucs de chez Claire's qui sont super.
Quoi, Claire's?
Bah, c'est des boutiques de toc.
Ah oui?
Des boutiques de bijoux.
On vous prête des trucs de toc.
Jamais. J'aurais bien aimé, même ça, mais on me le prête même pas.
Puis comme on va pas aux sauteries chercher les téléphones, les sacs. Les
on serait invité, on irait en
on
même temps.
Mais
Jamais un grand bijoutier vous a prêté des beaux bijoux.
Jamais. Non.
Ça m'est arrivé une fois, mais c'était vraiment fait pour le festival de Cannes.
Pour monter les marches.
Je suis allée un petit peu pleurer quand même.
Et alors on a peur de se le faire voler ou pas?
Oui, tout le temps.
Ah oui, c'est ça.
C'est horrible.
On a assuré.
En plus, on m'a même pas donné un garde du corps, parce que moi, j'ai pris les bijoux pour ça.
Ah oui, c'est sûr.
Moi, j'aurais un mec avec moi toute la journée. Mais non, on m'a même pas donné pour ça.
Et on le rend, évidemment, après.
Bah oui. Oh
bah oui, on le rend.
Non.
Sauf quand on est ministre de la Justice.
On le fait disparaître.
Mais oui, on les rend après, c'est ça qui est terrible.
On vous a déjà prêté des bijoux, Pierre?
Oui, Cartier me prêtait des bijoux.
Oui.
Mais c'était pour une manifestation,
communiste.
Politique.
Quoi?
C'est pour une manifestation communiste.
De la République à la Bastille avec une Rolex.
Ce week-end, on a pu voir des Allemandes battre des Françaises en finale. Dans quelle discipline?
Du sport.
Alors du sport, certains disent que c'est un sport, d'autres... En tout cas, la France ne le reconnaît pas comme un sport.
C'est des voitures?
C'est pas des voitures.
Non, c'est au bridge, tricot, c'est au bridge.
Tricot. C'est pas du bridge, c'est pas du tricot.
Du tricot.
C'est non, un jeu, quoi. C'est comme, mettons, on dit la pétanque, quoi.
C'est pas la pétanque.
C'est physique. Mais est-ce que ça peut être un jeu comme ça
En tout cas, les Allemandes ont battu les Françaises en finale.
C'est physique?
C'est physique. Alors certains disent que ça muscle et que c'est physique.
Ça muscle quoi?
Ah bah,
je vais pas vous le dire.
Les pieds?
Pas les pieds.
Les mains?
Les poignets?
Les poignets, oui.
Le baby-foot.
Le baby-foot, bonne réponse de Titoff.
Ah oui, j'ai vu ça.
C'était la deuxième édition de la Coupe du Monde de baby-foot.
C'est un sport, le baby-foot, attends.
Oh non, c'est pas
Moi, j'ai terminé, j'étais en âge.
C'est moins physique que le flipper, mais...
C'était ce week-end à Nantes, et pour la première fois, la compétition avait d'un côté les hommes, mais de l'autre des femmes. Et les Françaises se sont fait battre par les Allemandes en finale de baby-foot. Chez les hommes, ce sont les Américains qui ont remporté le titre en finale contre les Pays-Bas.
Et c'était balle dure ou balle molle?
Comment ça, balle dure ou balle molle?
Bah, il y avait balle dure et balle molle au baby-foot.
Ah bon,
et est-ce que les assurances étaient autorisées?
Non, mais...
Je vais demander au président de la fédération.
Est-ce qu'ils avaient le droit de mouliner ou pas?
On va demander tout ça à Farid Lounas, qui est président de la Fédération française et internationale de football de table, car on dit football de table. Bonjour, monsieur Lounas.
Bonjour.
Vous avez entendu les questions posées. Alors, première question de Titoff.
Oui. Balle dure ou balle molle?
Balle dure, mais je vois que c'est un spécialiste, hein. En fait, maintenant, le standard mondial, c'est des balles en plastique. Hein.
C'est quoi les assurances?
C'est quand t'as la balle sous le joueur et que tu tires de, vers toi et pour envoyer la balle. Et donc c'est assez facile de marquer comme ça quand tu es un peu entraîné, tu vois. Mais il faut que la balle soit en mouvement, non, c'est très important.
On a un spécialiste là.
Vous pouvez imaginer que j'ai passé quand j'allais au collège, j'ai passé ma vie à jouer au baby-foot.
Il a fait un BEP baby-foot.
Au lieu d'aller à l'école.
Il s'est rempli de grenadines au baby-foot.
Ah, c'est.
Alors l'autre question, c'était quoi alors?
C'est un jeu merveilleux, le baby-foot.
Sur le baby-foot, c'était. Ah oui, est-ce qu'on a le droit de faire la roulette?
Alors on n'a pas le droit de faire de roulette. Il faut que ça soit limité à un tour. Donc les règles sont beaucoup plus simples que celles qu'on peut connaître plus ou moins dans les 1500 bars ou dans les 3000 bars dans lesquels vous avez pu pratiquer avant.
Oh non, moi j'avais pas fait 3000, là, j'en ai fait 2 ou 3 deux bars.
Et les mêmes, toujours les mêmes.
On peut aller à la pêche, on peut pêcher encore ou pas?
Non, maintenant il y a un règlement unique, mais on peut pas pêcher, non. On peut pas mettre les mains dans le baby.
C'est quand une fois que vous avez marqué, vous récupérez avec la main avant qu'elle tombe la balle dans le but adverse, en fait.
C'est pour plus un moins un, comme ça la balle elle est pas perdue, tu as récupéré la balle. Et là alors c'est plus un moins un, tu marques un point et l'autre, il dit non,
je ne comprends rien.
C'est super technique le baby, vous pouvez pas comprendre. Vous, ce que vous aimez, c'est la politique, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir, quoi. On n'a pas toutes les mêmes valeurs.
On n'a pas le droit de marquer des demi, quand même.
On a le droit de marquer des demi, on a le
quoi
droit.
Quoi?
De... Oh, c'est scandaleux.
Si, bien sûr, on peut marquer les demi.
Ah non.
On peut marquer les demi. On peut pas marquer direct.
C'est scandaleux.
Tu peux pas marquer direct au début à l'engagement, pas marquer les demi. Mais pendant.
Ah oui, il a raison.
Mais pendant que tu joues, le charipon sur le baby foot.
Et les râteaux. Et est-ce qu'il y a râteau au demi quand on touche la balle avec les demi? Il y a râteau.
Je vois qu'il y a des grands spécialistes d'un peu tout. Bon, tout est un peu près faux.
Je pense qu'ils sont plus spécialistes du bistrot que du baby foot.
Mais c'est intéressant parce que ce sont des vrais passionnés, donc ça fait plaisir.
Oui. Et c'était quoi la marque de baby foot? C'est un Bonzini?
Ah bah voilà, là c'est un vrai spécialiste. Effectivement, la marque française, hein, la marque.
Moi je faisais du triathlon, je faisais baby foot, flipper et bière.
Christine, vous êtes surprise que Pierre soit comme ça.
J'avais l'impression qu'on était chez Pagnol, surtout. C'était assez non, joli. C'était un moment de poésie dans cette émission. Bah,
c'est comme si tu t'étonnais qu'une fille connaisse la différence entre les collants et les bas et les sockets. Et nous, c'est notre vie, le baby-foot.
La seule fois où je suis sorti avec trois footballeurs, c'était une tringle de baby-foot.
C'est comme si toi, tu faisais pas la différence entre un aspirateur et un balai. Tu vois ce que je veux dire, non?
Alors, est-ce que c'est un sport ou pas, monsieur Lounas?
Alors, c'est à la fois un sport parce que ça, il y a toutes les caractéristiques techniques, physiques et psychologiques d'un sport. Et je pense que tous les journalistes qui sont venus ce week-end ont pu le constater.
C'était à Nantes, hein?
C'était à Nantes, oui. Maintenant, c'est aussi, il faut pas du tout le dissocier, c'est aussi une activité ludique, une activité de plaisir, comme le sport doit l'être. C'est d'abord une activité de jeu.
La France reconnaît moins le baby-foot comme une discipline sportive que d'autres pays qui l'ont inscrit vraiment dans la catégorie sport. On est bien d'accord?
Alors, en fait, c'est le ministère n'a pas franchi le pas de reconnaître l'activité comme un sport, bien qu'effectivement dans d'autres pays ça soit fait. Mais il faut savoir que notre demande d'agrément est soutenue par, et ça c'est toujours très, très étrange, hein, mais par les deux anciens ministres des sports, Georges Buffet et Jean-François Lamour.
Et Madame Bachelot, non?
Madame Bachelot, ben on attend encore un petit peu, comme
je suis sûr que ça l'amuserait beaucoup. On aurait dû y aller. Michel,
est-ce qu'il y a une tenue réglementaire pour jouer au baby-foot?
Oui.
On peut jouer comme on veut.
Culotte et soutien-gorge pour les filles.
Ouais.
Et cravate obligatoire pour les mecs.
D'accord.
Non, sérieusement.
Non, il y a une tenue sportive obligatoire, classique, à part pour un championnat du monde comme ce week-end, où là, c'est la tenue nationale du pays qui est obligatoire.
Ça muscle le poignet, vraiment?
Moins que...
Pierre.
Moins que d'autres sports, comme le ping-pong, par exemple.
Moins que le 4-21.
Ça muscle quoi, alors?
Non, en fait, ça muscle principalement, j'ai envie de dire, la partie abdominale, parce qu'il faut être capable de tenir, de frapper pendant une centaine de tirs pendant la journée.
Ça fait des abdos, vous voulez dire?
Oui, non, ça muscle la partie abdominale.
Pour pouvoir être un bon joueur, il faut être capable d'avoir une tenue. Il s'agit de frapper un peu comme moi en boxe, hein, pour pouvoir marquer à haut niveau, bien sûr. Hein, si, quand vous vous amusez, on n'est pas dans ce cadre-là. Mais il s'agit de frapper des centaines de tirs pendant une journée et d'être capable de marquer face à des joueurs qui, eux, ne le souhaitent pas, évidemment. Donc, il faut aller être capable d'être rapide et puissant.
Je suis content, en tout cas, Titoff, d'avoir trouvé un sujet qui vous passionnait pendant au moins 10 minutes.
C'est la première
parce que
fois
c'était... Non, tu sais quoi, c'est des réminiscences d'une partie de vie qui est de l'adolescence à jusqu'à maintenant, quoi.
Michalak, vous avez déjà joué, mais vous étiez sur le baby.
Fait mal aux fesses un peu la barre métallique là. Hein.
C'est un truc de teigneux.
Au début, ça gêne.
Non, c'est un truc. C'est
de
vrai
teigneux,
que.
Teigneux, de petit con.
Non,
mais je parle des garçons dans les bars, ils veulent vraiment marquer.
C'est un jeu de bar. Tous les jeux, c'est pareil. Toi, tu penses ça doit être pour rigoler entre copains.
Ah non,
bon.
Pas du tout.
Mais il y a des gens que quand ils deviennent bons, ils essayent de faire de la compétition, d'être meilleurs et ils prennent ça au sérieux. C'est comme.
Ils se la pètent. T'as jamais vu les mecs jouer?
Non, non, non. Moi, je trouve qu'en tout cas, d'ailleurs, c'est marqué dans l'article. En France, tous les jeux, tout ce qui est ludique, c'est souvent vu un peu de haut. Il faut regarder tout le temps le côté intellectuel.
Non.
Moi, je trouve que souvent le jeu apporte quelque chose de ludique et notamment justement pour les enfants, de très intéressant pour l'imagination et pour et justement aussi pour la détente et être bien dans sa peau.
Vous êtes champion de PlayStation aussi.
Je suis pas mal non plus. Oui,
formation complète.
La conversation.
Et sa femme est contente parce que ça se passe pas au bar.
Au moins la PlayStation c'est à la maison.
C'est à la maison.
Pierre est en train de devenir champion de Wii, hein, Pierre?
Oui, je suis très bon, oui. C'est vachement bien. C'était quoi le oui déjà?
Pas toutes les semaines. Hein. On vous remercie, monsieur Farid Lounas.
Merci.
Et quand a lieu la prochaine compétition?
Alors, la prochaine, ça va être en France, en tous les cas. Hein. La prochaine compétition mondiale, c'est à Aubonne, dans le Val d'Oise.
Merci, Farid Lounas, président de la Fédération française et internationale de football de table. Allez, une autre question. Dans la presse, ce matin, on nous parle de Rocco Siffredi, puisqu'on pourra voir ce soir à la télévision une émission sur Canal Jimmy qui va s'appeler « Mon cul sur la télé ». C'est le titre de l'émission produite par Bataille et Fontaine, un titre élégant. Hein,
oui, c'est élégant. Oui.
Mon cul sur la télé.
Surtout, c'est pas ce qu'on connaît de mieux de Rocco Siffredi.
Oui.
Il pouvait pas dire l'autre chose, quoi.
Faut dire que ma bite à la radio, oui, ça passe moins
ça
bien.
Ça fait moins.
Ben oui. Mon cul sur la télé est un documentaire, en fait, il faut le savoir. Un documentaire sur le sexe à travers les années et les chaînes de télévision. On y reverra, par exemple, la fameuse Playmate du Collard au Chaud qui avait révolutionné les mœurs, les émissions de Pascal Brogniaux comme Psycho et autres. Et Rocco Siffredi fait donc ses débuts d'animateur. Il dit, ça a été une super expérience. J'aimerais animer régulièrement une émission.
En tout cas, il a arrêté le porno et il explique qu'il vit à Budapest, hein, en Hongrie, avec son épouse.
C'est pas la meilleure façon d'arrêter le porno, mais bon.
D'ailleurs, justement, ma question, c'est, il a transformé l'ancien terrain de motocross à côté de sa maison en quoi ?
En club échangiste ?
Ouais. Non.
Non, ça a à voir avec le sexe, non ?
Un peu.
Un peu.
Enfin, un peu, oui.
Il a fait un musée.
Il a fait une sculpture.
Une cinémathèque.
Non. Il dit, je suis un père complètement normal, je suis très très famille. Mais j'ai quand même transformé l'ancien terrain de motocross à côté de ma maison en...
En salle d'entraînement pour acteurs porno.
Quasiment mieux
en studio,
que ça.
Studio pour un film.
En club échangiste.
En porno académie.
Le plus grand studio X d'Europe. C'est... Bonne réponse, Déboué et Michalak.
T'as raison, il a arrêté.
Voilà. Et maintenant, il enchaîne les tournages à côté de chez lui.
Alors qu'avant, il enchaînait les meufs.
En tant que producteur.
Ouais. Oh, ouais. C'est pas... Et c'est studio uniquement porno, quoi. Tu veux aller tourner un film normal, t'as pas le droit.
Non. Très grande hauteur sous plafond, hein. Ils ont prévu le coup.
Pourquoi ?
Ah bah, Rocco Siffredi, quand même.
Non, justement, il dit qu'il a du mal à trouver aujourd'hui des gens aussi doués que lui. Sans prétention.
C'est modeste, ça.
Oui, il dit, sans prétention, j'ai du mal à trouver de bons acteurs. Ils n'ont pas assez de personnalité. Moi, j'ai arrêté à 40 ans pour les gosses, dit-il. C'était pas une question.
Mais maintenant, il prend des vieux uniquement.
Il y a Pierre qui va s'inscrire.
Mais que pensent ces enfants qui approchent de la puberté, du métier de leur papa ? Pose Yves Jaglet comme question. Que pensent vos enfants ? Et alors, il répond, ils sont habitués. Depuis tout petit, ils savent que le travail de papa, c'est se tripoter avec les femmes. Voilà.
Non, mais ce qui est drôle quand même, c'est quand tu dis que les acteurs porno manquent de personnalité aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que la personnalité de l'acteur porno, c'est pas le truc que tu vois en premier, quoi.
Si, quand même, lui,
mais si.
On le reconnaissait.
Il y a eu des stars du porno.
Ah oui, non, mais c'est vrai. Il y a des acteurs de porno qui ont aucune personnalité, tandis qu'il y en a d'autres qui ont, c'est comme les filles. C'est pas seulement les filles qui sont les mieux faites, qui séduisent le plus. Il y a aussi quelque chose dans le regard, dans le machin. Et ben, pour nous, les acteurs porno, c'est un peu pareil.
Tracy Chapman, Sing For You, un extrait de son album Our Bright Future.
On va gêner, continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, bien sûr.
Europe 1, la question à deux balles.
La question
à deux balles. Parce que c'est la crise.
Maître Françoise Cotta est avocate. Elle a beaucoup de travail. Pour quelle raison ?
La défense Amina Seri.
Bonne réponse de Fabrice Évoué. J'avais dit deux balles, hein, c'était rapide comme réponse. Eh oui, c'est l'avocate de Samy Nasseri, c'est vous dire si elle a régulièrement du boulot. Il a été mis en examen pour blessure volontaire à l'arme blanche en récidive et placé sous mandat de dépôt. Christine, c'est votre pote ?
Bah c'est pas mon pote, si, mais je le connaissais
avant qu'il essaie de t'étrangler, vous étiez pote quand même.
Mais moi, je n'ai pas connu l'homme dont on parle aujourd'hui dans les journaux de cette manière-là. J'ai connu quelqu'un de tout à fait charmant, bien élevé, poli, doux, sympathique, intelligent. Et donc, je suis très
étonnée. On parle pas de l'abbé Pierre.
Mais je vous promets que c'était un type tout à fait fréquentable.
On dirait les témoignages. Tu sais, quand il y a des carnages à côté, on les voyait le matin, ils étaient très sympathiques. On le voyait sortir les poubelles. C'était quelqu'un vraiment
des gens sans histoire.
Très sympa, ils n'avaient aucun problème.
Ça, c'est vrai.
C'est le trait de caractère du psychopathe. C'est qu'il est
qui a-t-on pu voir jeudi dernier, à moins 2 degrés, faire un jogging en pantalon et pull, écharpe marron autour du cou, avec une grosse paire de baskets blanches, mais sans bonnet, et avec un petit chien à poil ras de couleur marron qui le suivait.
Belmondo ?
C'est la journée Belmondo, mais pas à ce point-là quand même.
Barack Obama, peut-être ?
Non, pas Barack Obama. Moins 2 degrés.
C'est un Français ? C'est un Français ?
Un Français.
En France ?
Oui, en France.
Sarko ?
Eh bien, évidemment, le président de la République. Enfin, quand même, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ?
Parce qu'il n'a pas de chien.
Parce que c'est
tellement à lui tout de suite que je me suis dit, ça peut pas être ça.
Ouais. Ça doit être le chien de Carla.
C'est le petit chihuahua, là.
Jeudi
mais sans bonnet. Tu l'imagines avec un bonnet. Sarko avec un bonnet à pompons. Arrête tes conneries.
Jeudi après-midi, entre 14h30 et 15h, alors qu'il faisait moins 2 degrés, le président enchaînait les tours dans le parc de l'Élysée enneigé, courant seul, uniquement suivi d'un petit chien à poil ras de couleur marron. Monsieur Sarkozy.
Il voulait tuer le chien ou quoi?
Non, il était derrière le chien.
Bah justement, il court derrière. Sans poil.
Nicolas Sarkozy allait à vive allure, une écharpe marron autour du cou, en pantalon et pull, avec une grosse paire de baskets blanches, mais sans bonnet, nous a précisé le Parisien ce week-end.
Carla a pas eu le temps de tricoter quelque chose ou quoi ?
C'est bon de courir dans le froid comme ça, Pierre, vous qui êtes un grand sportif.
Moi, je cours, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, je cours toujours, moi. C'est de la connerie, moins deux, c'est pas tellement énorme.
Titoff, autre grand sportif.
Quand t'as fumé un paquet de cigarettes avant, ça pique un peu plus que d'habitude quand tu fais froid. C'est la seule différence.
Il court plus avec le Premier ministre François Fillon, en tout cas, en attendant.
Il a trop mal au dos, pourquoi?
Il a trouvé un autre chien, apparemment.
Je voudrais vous parler d'un designer anglais de la société Concentrate qui vient de lancer un nouveau crayon. Un crayon de quel genre lancé par ce designer?
Un crayon à papier?
Oui, un crayon à papier.
Et bah de quel genre?
Il a une forme particulière?
Si je vous en parle, c'est parce qu'il est particulier, ce
la
crayon.
La mine se casse plus, un truc comme ça?
Non.
La forme est particulière?
Non.
C'est en rapport avec la mine?
Non.
C'est en rapport avec le matériau?
C'est
la
manière de le tailler?
Non.
Est-ce que ce serait pas un crayon révolutionnaire avec une gomme à l'arrière?
Est-ce qu'il n'y a pas une puce dans le crayon?
On peut plus crever les yeux avec.
Non, non, des parents vont l'acheter parce qu'ils vont se dire, tiens, ça c'est bien pour nos enfants.
C'est pour les fautes d'orthographe.
Non, non, non.
Pour compter.
Non, non, c'est pas mal, hein. Ce designer anglais a eu de l'idée. Bon, je sais pas si ça va marcher, mais voilà, il paraît que ça fonctionne.
Les instits vont préférer
ce crayon. Si on écrit mal?
Les instits s'en fichent, hein, je pense.
Si mais... on écrit mal, ça fait une décharge électrique?
Non, non, non.
C'est un crayon qui change de couleur. Comme il y avait le stylo 4 couleurs, maintenant c'est le crayon 4 couleurs.
C'est un rapport avec l'écologie.
Je savais que ça allait être difficile, cette question. Aucun rapport avec l'écologie.
On peut plus le manger.
Ah, on se rapproche.
Alors, donc, ça veut dire que c'est un crayon avec un goût particulier.
Non.
Il est sucré?
Non, c'est la matière.
C'est pas son goût.
Tu te casses la dent si tu le mords.
Il y a du poison au bout?
Non.
Non, ça veut dire qu'il est mou.
Non.
Il est comestible?
Non. Qu'est-ce qui vous empêcherait?
Alors, il est amer.
Non. Ouais, comme le vernis qu'on met sur les ongles.
Il est trop gros.
Non.
Plus gros que la
bouche. Ah, il laisse une couleur indélébile sur les lèvres.
Non. Pas bête.
Ça s'appelle donc, d'ailleurs le bâton de rouge.
Vous avez compris, donc, que le designer en question a eu l'idée de lancer un crayon qui...
Une petite décharge?
Non, un crayon qui... Le but de ce crayon,
qui
c'est...
Qui se mange pas.
Qui se mange.
C'est que les enfants arrêtent de manger de le mâcher.
Qui puisse pas mordre.
Que les enfants arrêtent de le mâcher. Merci, Jérémy, de m'aider. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme idée, ces Anglais?
Il a mis un peu de polonium.
Non. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme idée, ces Anglais, pour que les enfants n'aient pas envie de mâcher leur
crayon? Ah, c'est
les
Anglais.
Il est trop beau.
Il est en forme de sextoy.
Il est en forme d'escargot. J'aime pas les escargots.
Qu'est-ce qu'il a fait vraiment qu'on arrête de le mordiller? Il est trop beau.
Mais oui, par exemple,
ah ouais,
si
il est trop beau, donc on arrête de le mordiller.
Mais non, mais si t'as un symbole dessus, la tête de Zidane, un truc comme ça, tu veux pas le défigurer en
si,
le mordant?
Moi j'adorerais, moi je prendrais tout.
Ah, alors c'est la tête de la reine alors peut-être?
Non, tout simplement, il est
méchant.
Non,
il est déjà mâché, il est déjà mâchouillé.
Il est pré-mâché. Bonne réponse, Jérémy Michalak.
Faut être tordu pour trouver, tu vois.
Non mais
parce
c'est
que
vrai.
Moi ça me débecterait d'acheter un truc pré-mâché. Bah
justement.
J'y ai pensé parce que quand t'as la reine, vous êtes idiote.
Mais ça me débecterait de l'acheter.
Mais c'est pas vous qui l'achetez, vous l'achetez pour vos enfants.
Mais ça me débecte.
Mais oui, mais vos enfants le mâcheront pas parce qu'il a été pré-mâché.
Mais on peut toujours mâcher plus que ça ne l'est.
Ouais, mais c'est grave.
Même si ça a été pré-mâché.
Vous passerez à la maison.
Ça a été prémâché par Michalak déjà.
Oh non, ça y est. Mais cette liaison que vous me prêtez avec Jérémy Michalak fait que. Non, mais ma famille se pose des questions.
Et la mienne, tu crois pas qu'elle s'en pose des questions? Plus non, que la tienne, hein, je te jure. Franchement.
En tout cas, voilà, les designers anglais ont trouvé la parade. Ils ont lancé sur ce marché des crayons les crayons pré-mâché, les enfants seraient moins tentés de poser leurs lèvres dessus, trop berque.
Oui, mais c'est...
Non, mais c'est faussement.
Oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pré-mâcher les crayons non, avant de les donner
pré-mâché.
Aux enfants.
Faussement pré-mâché.
Ah ouais, bien sûr. Mais comment on voit qu'un crayon est pré-mâché? Quoi, il y a des marques dedans? Ah, il y a
oui.
des.
Mais oui. Oui, c'est t'as le bouquet.
Il est pas mouillé quand même quand on le vend.
Non.
Il y a que le mouillé qui dégoûte dans le pré-mâchage.
Il y a l'odeur
oui,
sur le bout.
Mais oui.
Non, c'est pas vrai. Vous voyez un stylo qui a déjà été mordillé. Vous ne mordillez pas.
Ça touche pas.
Mais si. Non. Quand on le vend, je une gomme mâchée, hein. S'il est sec, tu d'accord. S'il est mouillé, ça te dégoûte.
Je suis d'accord.
Mais c'est vrai.
Quand tu récupères un chewing-gum déjà mâché, s'il est pas mouillé, c'est moins dégoûtant.
Mais tu le bouffes?
Bah oui.
Bah bien sûr. Bah quand t'as pas de chewing-gum, il y en a tout le temps sous les chaises. C'est fait pour quoi, tu crois?
C'est ça.
Moi qui ai connu les premiers chewing-gums.
Ah.
Puisque il y a eu les Américains qui ont débarqué en Algérie pendant la guerre. Ils donnaient des chewing-gums. Et il y avait un tarif que des petits revendeurs, c'était chewing-gum neuf. Tant de francs, mâché, tant de francs.
Non.
Mais oui, on vendait des chewing-gums mâchés. On était fous des chewing-gums.
Pourquoi Johnny Hallyday aurait interdit la chanson des Fatal Picard qui figure sur leur prochain album? Chanson dont le titre est, et à vous de trouver la suite, à vous de compléter le titre de la chanson, Le jour 2, Le jour de quoi?
De Jade?
Non.
Il a interdit ça où?
Le jour de Jade?
Il a interdit sur l'album parce que, enfin, il a pas interdit directement, mais comme ils font partie de la même maison de disques chez Warner, il n'a pas, nous dit-on en tout cas dans la presse, donné son aval pour que les Fatal Picard puissent enregistrer cette chanson sur leur album.
Le jour de la mort de Johnny?
Le jour de la mort de Johnny, bonne réponse de Michel Bernier. Vous le saviez?
Non, c'est parce que j'imagine bien que c'est le genre de choses que Johnny n'a pas, enfin, ça ne va pas lui plaire.
Leur nouvel
surtout
album.
Surtout qu'il vient d'adopter une autre petite fille, donc je pense que ça doit avoir cette idée
pour
lui.
Il est superstitieux, en fait,
ouais,
sûrement. C'est un nouvel album.
Tous les imbéciles, pardon.
Mais c'est votre cas aussi, par
mais
exemple.
Mais oui, absolument. Je déteste les têtes qu'on
fera
pas.
Un truc sur la mort de
Pierre Bénichou. Même la mort des autres, je m'en fous un peu, mais la mienne, je déteste.
C'est vrai qu'il y a des gens superstitieux là-dessus, et moi, je ne comprends pas. Ça, on peut se moquer même de ça, mais apparemment, si lui, il est superstitieux là-dessus, c'est respectable, il a raison de le faire.
Le nouvel album des Fatal Picard s'appelle Le sens de la gravité. On rappellera qu'ils avaient représenté la France à l'Eurovision en 2007, les Fatal Picard, et ils aiment bien faire du name dropping, comme on dit, mettre des noms. Ils ont fait une chanson sur Bernard Lavillier, amusante, et là, ils avaient fait une chanson qui s'appelle La mort de Johnny, le jour de la mort de Johnny. On la trouve quand même sur Internet, la chanson.
Tu étais pour nous le dernier indien, le Jean-Michel Jarre du rêve américain. Tu étais le blues de Bruxelles à Memphis, l'ultime samouraï de la route 66. Le jour où tu oublieras de vivre, j'oublierai d'être libre. Est-ce qu'il fera beau? Est-ce qu'il y aura des motos? Est-ce qu'il y aura des anges en perfecto à frange? Et est-ce qu'on sera bronzé? Est-ce qu'on sera à Saint-Tropez? Est-ce qu'il y aura des larmes dans les yeux des chevaux? On sentira tous un petit peu belge, on sentira tous un petit peu triste, on sentira tous un petit peu suisse. Oh oui, le jour de la mort de Johnny.
Voilà, on se sentira tous un petit peu belge, on se sentira tous un petit peu triste, on se sentira tous un petit peu suisse le jour de la mort de Johnny. Bon,
c'est méchant contre Johnny, c'est juste qu'ils avaient envie de dire du mal de lui, quoi. Oui. C'est juste ça.
C'est pas terrible non plus en même temps.
De temps en temps, égratigner les icônes, c'est pas mal non plus.
Il pourrait faire,
c'est pas terrible, mais c'est quand même mieux que les chansons de Johnny, quand même.
Non, mais alors là, vous êtes pire que les Fatal Picard.
Ils auraient peut-être pas dû prendre ce titre-là. Voilà. Ils auraient dû garder la chanson et changer de titre.
Oui,
quoi.
Exactement.
Hommage à Johnny, et après, comprenne qui veut.
Exactement.
Voilà. C'est dommage. Il a pas compris le titre. Il aurait été d'accord si on avait mis le jour de la mort à Johnny.
J'ai pas vu la photo de la nouvelle petite. Alors, c'est vrai qu'elle est partout dans la presse, paraît-il.
Pas comme l'autre, la première fille qu'ils ont adoptée. C'est pareil. Jade, elle a la une de tous les jours.
Non,
c'est ça que je voulais dire.
Jade. Je sais pas comment elle s'appelle, la petite nouvelle.
Joy.
Joy. Voilà. En tout cas, voilà. Tous nos vœux de bonheur à la famille Johnny, Laetitia, Jade, Joy.
Jade, John, Laura.
Johnny.
Et les prochains. Voilà. Il y a quelqu'un qui est parti en Thaïlande, lui, pas pour adopter, mais pour ses vacances. C'est François Hollande. Je sais pas si vous avez vu les photos.
C'est terrible.
Les photos de François Hollande sur la plage.
C'est vache, d'ailleurs. C'est ça qui est vache chez les paparazzi et tout. C'est que,
Ils sont drôles, quand même.
Il était tranquille sur la plage et l'autre, il redevient le bonhomme Michelin à la plage.
Sur la première page, on voit François Hollande sur la plage arrivé en Thaïlande en costume. Ça va être fait quand on arrive à l'hôtel, on est encore avec le costume.
Oui, parce que ta chambre est pas prête.
La chambre est pas prête. Alors, on le voit arriver en costard sur la plage. Alors, c'est vrai qu'il est ridicule, mais finalement, il est mieux que deux jours plus tard. Où là, alors là, c'est terrible.
Le problème, c'est le chapeau, quoi.
Ils ont mis ça, c'est le chapeau.
Les paparazzi qui ont pris cette photo de François Hollande, mais alors,
Et toi, tu te fais leur complice en incitant.
Mais voici, c'est à mourir de rire. Franchement, mais moi je me marre tous les lundis.
Tu te verrais comme ça,
Non, tant que ça me touche pas, moi.
Ouais, c'est ça. Tant que c'est
ce
les autres.
Ouais, moi, ça m'emmerderait d'être.
Oui, mais faut accepter. Bas, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis.
Plus je mets.
Ils ont rajouté une petite lumière sur sa poitrine, sur son torse, qui est pas mal.
Puis d'abord, je n'aurais pas cette tenue, chère Christine.
Pas si bourrelet, tu veux dire.
Pas si gros que ça, quoi.
Mais non, c'est le chapeau.
Le problème, c'est le chapeau.
On a bien le droit de pas être un mannequin.
Bien sûr.
Il est plutôt attirant, je trouve.
Oh non, non, il est laid. Hein.
Non, c'est laid. Oh, là. C'est pas possible.
Il a pas dû avoir beaucoup de succès avec les gosses là-bas.
Ah oui, aller en Thaïlande et être obligé de se taper sa gonzesse.
Ah, c'est dur.
Oh, mais vous êtes horrible. Oh.
Sa compagne est pas mal, ça va.
Oui, non, il nous donne le nom hein, dans Voici. Hein. C'est une journaliste qui travaille sur Direct 8. Valérie Rottweiler, je sais plus son...
Valérie Trierweiler.
Ah, vous voyez, j'étais pas loin. Ouais. Franchement. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils nous disent que François Hollande et sa compagne ont loué un bungalow à moins de 75 euros la nuit. Parce que depuis leur coup de foudre il y a quelques mois, tels Adam et Ève, ils vivent presque d'amour et d'eau fraîche. Alors un bungalow, ça veut dire un bungalow, c'est quoi un bungalow?
Une maison à des bah, Une case,
sur la plage.
Ouais. Oui, voilà.
Et Martine Aubry doit être en train de prier pour qu'il y ait un tsunami, enfin je sais pas parce que c'est quand même...
Mais sur le coup, j'ai cru que c'était Martine Aubry avec ce chapeau. J'ai marqué PS, j'ai dit tiens.
C'est pas Martine Aubry.
Elle fait du topless.
C'est François Hollande, qu'on salue. Hein. Il est rentré de vacances et d'ailleurs il a fait une déclaration assez dure concernant Éric Besson. Vous savez, le ministre qui va peut-être devenir ministre de l'immigration à la place de Brice Hortefeux.
Il a dit c'est le traître heureux.
Voilà, Éric Besson est dans une logique, il va jusqu'au bout, il l'assume, c'est le traître heureux, laissons-le à son bonheur. Ça c'est dégueulasse. Quand même, il est assez drôle François Hollande.
Il est très drôle. On peut penser qu'il a bien manœuvré ou mal manœuvré, mais c'est quelqu'un dans la vie de très marrant.
Faut juste qu'il aille chez Villebrequin acheter un nouveau maillot de bain. Oui. On se retrouve après Flash de 17h.
L'émission d'aujourd'hui, On va gêner, a été exceptionnellement enregistrée ce matin. Laurent Ruquier n'évoquera donc pas la mort du réalisateur et producteur de cinéma Claude Berry. On retrouve Laurent et son équipe.
On va se gêner, c'est la deuxième heure. Nous sommes ensemble depuis 16h jusqu'à 18h. Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Évoué, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Titoff tentent de vous faire rire, de vous amuser, mais aussi de vous cultiver sur l'actualité du Premier ministre François Fillon jusqu'au baby-foot. Tous les sujets possibles seront traités jusqu'à 18h.
La mission première restant la culture, bien sûr.
Bien entendu.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Dorothée.
Bonjour.
Vous habitez Rouen.
Tout à fait.
Que faites-vous à Rouen ?
Rien.
La chance. Je fais rien
c'est
à Rouen.
C'est bien comme métier.
Oui, bon.
Pourquoi ? Vous êtes quoi ? Étudiante ? Chômeuse ?
Chômeuse.
Ah, c'est bien. Bien.
Vous cherchez un travail ?
Oui.
Oh, ça a l'air.
Mais activement ?
Quel genre ?
Dans le secrétariat.
Dans le secrétariat. Donc si quelqu'un a besoin d'une secrétaire motivée à Rouen,
je suis disponible.
N'hésitez pas, Dorothée est prête. Dorothée, vous allez affronter Bertrand qui, lui... Et du côté de Juan-les-Pins.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Bonjour Bertrand. Faites quoi vous à Juan-les-Pins ?
Alors moi je suis assistant commercial pour l'entreprise Abyss, une société de yachting dans la ville d'Antibes.
Joli métier !
Oui, d'ailleurs je vous invite tous à venir me voir si lors de vos séjours sur la Côte d'Azur vous souhaitez bronzer en mer une journée ou un week-end.
Ah, sympa, on va garder vos coordonnées cool, Bertrand. Alors.
Avec grand plaisir.
Sauf qu'on descend jamais sur la Côte d'Azur, je déteste la Côte d'Azur.
Non, je sais que vous descendez tous sur la Côte d'Azur.
Non, descend
non,
pas.
C'est faux, c'est faux. Ah, puis tu sais, quand tu bénéficies du soleil du Havre, t'as aucune raison de descendre dans le sud. Hein.
Bon, Bertrand, Dorothée, vous avez peut-être un petit message avant de vous affronter, à faire passer ce message aux auditeurs, à votre famille, aux chroniqueurs.
Mais que je suis ravie de participer à l'émission et puis j'espère que Joujou va me laisser un petit peu d'avance.
Ah, Joujou, hein, vous avez vu, Dorothée vous supplie.
On va privilégier Bertrand parce que Dorothée au chômage et lui, il a des bateaux. Donc.
Et en plus, Jérémy, Michel, nous sommes amis sur Facebook, alors je compte sur toi pour pas me planter là maintenant. Hein.
Ah bon, voilà, samedi, tu savais pas avec qui sortir. Vous pouvez aller sur la Côte d'Azur.
Vous êtes amis sur Facebook avec Bertrand, Joujou.
J'accepte vraiment n'importe qui. Ah, voilà.
T'as quand même quelques amis, Jérémy, donc.
Elle est pas facile, la question. Facebook. Autant vous dire, je suis pas sûr que même Jérémy, je suis pas sûr qu'il ait la réponse. Et là, à mon avis, ça peut prendre un moment, hein. Alors, vous êtes prête, Dorothée? Vous êtes prêt, Bertrand?
Je suis prête.
On trouve sur le web cette phrase. À vous de me dire à qui elle est attribuée, cette phrase. Vous savez, je crois vraiment, qu'on est dans un moment unique, à la fois dans notre, vous savez, dans l'histoire de notre pays, et vous savez, dans ma propre vie, parce que, vous savez, on affronte, vous savez, des défis incroyables. À qui est attribuée cette phrase?
George Bush.
Les E, ils sont importants?
Oui, ah bah oui.
Il y a Benoît Hamon, il se fout de sa gueule sur Canal+, il met des E à chaque phrase.
C'est pas Benoît Hamon.
Elle a dit quoi, Dorothée?
Une personne de gauche?
Une personne de gauche, plutôt à gauche.
Voilà. Donc, qui bégaye. Un acteur.
Pardon. Écoutez, moi, je pense que c'est peut-être l'héritière Kennedy.
Oh là 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 là. C'est-à-dire, vous pouvez me donner son prénom quand même?
Alors, je n'ai plus son nom en tête.
Oh, c'est Caroline.
Caroline. Caroline Kennedy, on va vous accorder la bonne réponse. Bravo Bertrand. Alors, elle a pas tout à fait dit cette phrase, pour dire la vérité. Ce sont les journalistes aux États-Unis et les humoristes qui s'amusent à trouver le maximum de ces tics de langage et à les réunir dans le plus court laps de temps. Ils en ont fait une phrase parce que, paraît-il, elle est très mauvaise à l'oral et elle risque d'ailleurs finalement de ne pas être la candidate démocrate dans l'état de New York où elle veut se présenter. Elle risque de ne pas obtenir l'investiture parce que effectivement pour l'instant ses interviews sont pas très bonnes, tout le monde se moque d'elle et voilà la phrase donc type que répond Caroline Kennedy quand on lui pose une question. Oui. Vous savez, je crois vraiment qu'on est dans un moment unique, à la fois dans notre vous savez, dans l'histoire de notre pays, et vous savez, dans ma propre vie, parce que vous savez, on affronte vous savez, des défis incroyables.
Bon. Alors, est-ce que vous avez déjà vu en interview Patrick Modiano? Pas mal d'entre vous l'ont déjà vu en interview. On a l'impression que ce type est complètement idiot. Or, il est très intelligent, il est très subtil, mais il est d'une timidité maladive. Il semblerait que Caroline Kennedy soit d'une timidité maladive et ait le même syndrome face aux caméras. Voilà.
Bon, en tout cas, il a été fort, Bertrand, sur ce sujet et sur cette question. Vous êtes d'accord, Dorothée?
Ah bah bravo, Bertrand.
Ah oui, hein, vous ne saviez pas?
Pas du tout.
Bon, vous n'auriez pas.
J'aimerais profiter, en tout cas, d'être à l'antenne pour embrasser très fort Pierre Bénichou et Christine Bravo, qui sont mes deux chroniqueurs préférés.
Ah, il a fait eux.
Ah ouais, que je vous apprécie tout énormément et puis surtout vous, Laurent.
Oh, merci, Bertrand. Bon, on va aller faire du bateau.
Oui, moi,
alors.
Je veux bien aller faire du bateau. Ouais. Quel âge vous avez?
Vermus aussi, hein. Non, je plaisante.
Vermus, oui, on peut l'emmener pour le noyer.
Oh non, j'ai essayé. Ça marche pas.
Je vous dis ce que vous avez gagné, Bertrand.
Avec grand plaisir.
La légende du Baron Rouge, un livre de Stéphane Koechlin chez Fayard. Black Bazar, un bouquin dont on va parler tout à l'heure, Black Bazar, qui est publié au Seuil, un livre d'Alain Mabankou. Ulysse from Bagdad, le dernier livre d'Éric Emmanuel Schmitt, publié chez Albin Michel. On en a parlé vendredi dans cette émission. Deux places pour aller applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. Deux places, si vous en avez envie, pour applaudir Stevie dans Ma femme est folle au Théâtre des Nouveaux. Ça me fait à chaque fois, ça me fait. Au théâtre des Nouveautés. Deux places si vous patientez pour aller voir Je me voyais déjà, qui reprendra au théâtre Comédia à partir du 12 février. Je sais pas si vous pouvez venir jusqu'à Paris.
Je voudrais voir tous ces spectacles.
Et puis vous passez par le studio Europe 1, nous voir un matin. Il y a Christine qui fait oui, elle a envie de vous rencontrer, Bertrand.
Ce sera avec grand plaisir et si je pouvais avoir une photo dédicacée, ce serait.
Oui, oui. Oui. De qui vous voulez une photo
dédicacée? De toute l'équipe.
On vous embrasse, Bertrand, vous aussi, Dorothée, désolé.
C'est pas grave.
Dorothée?
Oui.
Embrasse Corbier pour moi. Qu'est-ce qu'on se marre dans cette émission, décidément.
Ah, il est marrant, je trouve.
Ah ouais, non, mais il y a une diversité.
Faut pas lui jeter la pierre. On l'a tous des hauts et des bas.
Attends, non, mais on parle. Il est tendre pour une fois.
Il a dit embrasse Corbier, il a pas dit encule Corbier. Ou...
Franchement. Oui, vous respectez pas Fabrice.
C'est vrai qu'il est en progrès, t'as raison,
tu vois.
Il est gentil.
Pour une fois qu'il est poétique, gentil. Retombé en enfant.
Arrêtez, non, moi, je suis du côté de Fabrice, c'est pas bien de tomber dessus comme ça quand tu fais une jolie petite vanne. Non.
Allez, salut Dorothée, salut Bertrand, merci à tous les deux.
Salut Laurent, salut toute l'équipe.
Qui dit Laurent Ruquier dit on va gêner sur Europe 1 jusqu'à 18h.
Attention, pas facile cette question. Clément Turpin a pris une décision à propos de Marcel Picot. Laquelle?
À propos de Marcel Picot.
Clément Turpin. Ah.
C'est du sport? C'est du foot?
C'est du foot.
C'est au Havre?
C'est pas au Havre, non, pas du tout.
Clément Turpin.
Tous les joueurs Picot, pas connus jouent pas
Marcel Picot, ouais. C'est pas un mec qui doit, réchauffer les terrains de foot?
Ah non, mais on se rapproche. Cher
ils tont la pelouse.
Sur les vestiaires.
C'est lié au problème du verglas sur les terrains.
Ça, c'est vrai.
Oui, oui.
Mais Pico, c'est qui?
Bah, c'est un peu la question.
Voilà,
hein.
Donc Pico, c'est l'arbitre. Qui,
c'est surtout. C'est,
mais non. Marcel Pico, c'est pas le nom d'un stade.
Voilà.
Ah,
on a...
Nancy.
Le stade de Nancy, bien ouais. sûr.
Et alors
Monsieur Turpin,
il a dit qu'il était praticable.
Non, qui est Clément Turpin?
Un arbitre.
L'arbitre, et il a pris quelle décision?
De annuler le match.
Bonne réponse de Titoff.
Ouais. Non, je l'avais dit, c'était l'arbitre.
Oh non, je sais pas, je dis Marcel Pico, c'est un stade, et je j'étais pas sûr, tu vois, donc j'attendais
d'avoir
l'information.
Le stade Marcel Pico, quand même très connu à Nancy,
bien sûr.
Le stade où Platini a fait ses débuts quand même.
Bah, tout le monde connaît le stade Pico.
Mais si, enfin, le
stade Marcel... On n'en entend jamais parler.
Du stade Marcel Pico?
Non.
Mais si, on n'entend jamais parler du stade Marcel Pico.
Mais non. Moi, j'entends Geoffroy Guichard.
Mais non, Michel Platini a fait ses débuts là-bas.
Mais bien sûr, d'ailleurs, quand tu vois un grand espace avec beaucoup de monde, tu dis putain, mais c'est Marcel Pico ici, tellement il y a de monde. Alors, mais tout le temps, tu dis Marcel Pico.
Mais c'est vrai,
c'est vrai. Moi, j'ai un cousin, il s'appelle Marcel, on l'appelle Marcel Pico, pour rigoler. C'est le nom le plus connu de France après Victor Hugo. Donc, je te jure, j'ai habité avenue Marcel Pico pendant des années. Moi.
Qui était Marcel Pico?
Qui était Marcel Pico? Tu oses demander ça?
Alors,
si. Mais si tu es ici, si on est vivant,
c'est grâce à lui.
C'est peut-être grâce à Marcel Pico.
C'est l'inventeur du baby-foot.
Non, Marcel Pico. C'est l'ancien maire de Nancy,
Nancy,
simplement.
Sûrement.
Mais oui, c'est une sorte de Jeanne d'Arc, Lorrain.
On va vérifier qui était Marcel Pico, mais en tout cas, Clément Turpin, lui, c'était l'arbitre. Et Clément Turpin, après avoir demandé leur opinion aux deux capitaines des équipes et nancéennes et niçoises, a pris cette décision seul. Non, le match ne se jouera pas à cause du gel. Il faut savoir pourtant qu'il y avait une bâche à Nancy.
Chauffante.
Oui, mais la bâche, il faut l'enlever quand même, comme disait Giroud.
Et oui.
Sur Europe 1. Giroud disait, la bâche, il faut quand même l'enlever 4 minutes avant.
Le fait d'enlever...
Et au bout, si on l'enlève 4 minutes avant, ça regèle.
Pas 4 minutes avant, hein, quelques heures avant.
Quelques heures
Pourquoi
avant.
Il faut enlever la bâche quelques heures avant? Parce que moi, je me posais la question. Je me disais, ils sont idiots qu'ils l'enlèvent
le dernier moment.
4 minutes avant, dernièrement. C'est tout simplement parce qu'il faut... Il faut tracer, il y a le traçage des lignes, il faut monter les buts aussi.
Ça prend combien de temps ça?
Bah, je sais pas, mais ça prend du temps, quelques heures. La bâche.
Quelques heures?
Ouais.
Pour faire une ligne blanche? Qu'est-ce que c'est que ces feignants, ça, encore?
Le gel s'installe en profondeur sur la pelouse pendant les quelques heures nécessaires à la mise en état du terrain, montage des buts.
C'est une insulte, c'est un crachat sur le visage de Marcel Pico.
Marcel Pico a été le dirigeant de club de football nancéen et c'est lui qui est à l'origine du stade de football de la ville qui porte aujourd'hui son nom. Voilà, il est né en 1893, Marcel
Pico. Mais il était partout. D'ailleurs, on disait Pico Pico par-ci, Pico Pico par-là. Non, il était très très connu.
Ouais, je voudrais un Pico bière, tout ça.
Marcel Pico est né. Non, mais c'est une gloire régionale.
C'est un grand journal, ma maison, mon Pico.
Marcel Pico était dans une famille spécialisée dans le dessin pour broderie et il a participé à la Première Guerre mondiale à Verdun. Il a été fait prisonnier en Bavière.
Prisonnier de guerre, il était.
Et les gens se moquaient de lui, ils disaient, oh, t'es trop Pico. Et enfin, bon, des trucs.
Ah bah dis donc.
Je crois qu'on en sait un peu plus sur Marcel Pico.
Ouais, mais pas assez,
pas assez encore.
Et alors je me demande si Monsieur Turpin, ça vient pas de Goulet Turpin.
Non, on va oublier Monsieur Turpin qui a pris cette sage décision, en tout cas de ne pas faire jouer le match à Nancy. Les pelouses de la discorde, peut-on lire aujourd'hui dans la presse, puisqu'il y a eu 3 matchs reportés ce week-end. Et c'est vrai que ça a coûté parfois beaucoup d'argent inutilement d'essayer de faire chauffer les pelouses pour des pelouses finalement gelé après 8 jours de fioul dépensé. Justement, ne quittons pas le domaine du froid, puisque commence aujourd'hui une belle aventure qui se terminera le 21 janvier, aventure pendant laquelle vous allez pouvoir suivre 25 mushers. Mais qu'est-ce que c'est qu'un musher?
Un musher.
Bah, c'est les courses de traîneau avec des chiens.
Oui, alors un musher, c'est...
C'est le conducteur,
c'est le conducteur du traîneau. Ouais.
Bonne réponse de Fabrice Eboué. Vous le saviez?
Ouais, bien sûr.
Bah non, il ne le savait pas.
Oui,
la question. Vous le saviez, non?
Non, mais vous le saviez pas, Christine.
Non, moi, je ne le savais pas.
Un musher, effectivement, comment ça s'écrit? Vous savez comment ça s'écrit?
M-U-S-H-E-R.
Bravo. C'est un conducteur de traîneau à neige tiré par un attelage de chiens d'attelage. Et il y a donc une nouvelle édition de la Grande Odyssée qui a commencé à Avoriaz. Le coup d'envoi a été donné hier en Haute-Savoie, à 4h30 hier.
Et on a les chiens en ligne.
C'est jusqu'au 21 janvier. Non, on n'a pas les chiens en ligne.
On a un musher.
On aurait pu avoir un mosher, mais
on aurait dit bonjour mosher.
Non.
Mosher, et si c'est une dame, on dit mosher dame.
Oh merde, on peut pas avoir un mosher puisqu'ils sont en train d'être tirés par des chiens.
Enfin, ils s'arrêtent de temps en temps quand même.
800 km à travers de la Savoie et de la Haute-Savoie, affrontant plus de 25 000 mètres de dénivelé dans les Alpes franco-suisses. L'arrivée est prévue à Valsonie en Maurienne le 21 janvier prochain. Peut-être qu'ils vont passer par l'Alpe d'Huez où on sera la semaine prochaine. Allez savoir, on les verra peut-être passer les mosheurs avec leur chien loup. C'est beau, hein, ce genre de chien quand même. Il faut dire les choses comme, non, mais c'est vrai, comme elles sont. C'est des jolis. On les voit là tirer le quoi? On les voit tirer le mosher.
Non. Si.
Mais si, tire le mosher.
De l'expression tirer le mosher, qui est très connue.
Mais comment vous connaissez tout ça, vous, Fabrice Eboué?
Il est bah, c'est ma culture, c'est-à-dire qu'il y a un Lucky Luke qui se passe au Canada. Et dedans, il y a des courses de mosher. Ouais, ouais.
Autre question. Et là, nous aurons un téléphone, quelqu'un en ligne tout de suite après, puisque c'est ce que vous aimez, c'est dialoguer,
j'adore,
Christine. Qu'est-ce qui pèse 400 grammes, qui est né au 15e siècle et dont Marius Fabre est un des derniers défenseurs.
400 grammes.
Il est né au 18e siècle. Et c'est un être vivant?
Il n'y a pas que Marius Fabre. Il y a aussi Gilbert de la Tour.
Un prématuré.
Gilles de la Tour.
Ah, c'est un peintre, donc.
Non, c'est pas un peintre.
C'est une pomme c'est un légume?
Non.
En tout cas, on aura au téléphone monsieur Gilles Latour tout à l'heure.
Un prématuré?
Qui est un des derniers défenseurs de ce qui pèse 400 grammes, qui est né au 15e siècle. Et c'est pas un prématuré.
Mais c'est quoi?
C'est vivant?
Ce n'est pas vivant du tout.
C'est un légume?
C'est pas un légume du tout.
Une fleur?
C'est vivant, un légume.
C'est une réalisation artistique.
Ça dépend
artistique.
Quand tu le coupes.
C'est pas artistique. Non,
c'est un objet unique.
C'est une coutume.
C'est un objet unique.
Comment c'est un objet unique?
C'est
non, vous en avez sûrement chez vous.
Et ça nous sert.
Et particulièrement vous, mon cher Tite.
Ah, donc
alors, une balle de football. Non. Un ballon de football.
Non. Le baby foot.
Le baby foot,
ouais. Non.
Un flipper. Un canapé.
Un lit, un oreiller, un polochon.
On va chercher tout ce qui va avec.
Une éponge.
De la bière, un coca, des chips. Une chaise.
La à quelle forme? Est-ce que ça porte le nom de la ville où je suis né?
Oui, oui, allez-y.
Le savon de Marseille.
Le savon de Marseille, bonne réponse de Titoff.
C'est marrant, c'est le dernier truc auquel on aurait pensé vis-à-vis de toi, c'est du savon.
Mais comment tu peux?
Qu'est-ce qui pèse 400 grammes?
Tous les trucs de feignasse, on y a pensé.
Alors le savon, c'est vrai, merci.
Trois fois par jour, ça m'étonnerait. Attends.
Non, pas trois fois par jour, 10 fois par jour.
Tu te laves 10 fois par jour.
Je me lave les mains 10 fois par jour.
Mais pour éviter la gastro.
Ah, les mains!
Bah, le savon de Marseille, on se lave tout avec. N'est-ce pas, monsieur Gilbert Latour? Bonjour.
Oui, bonjour Laurent et bonjour à vos invités.
Alors, vous appelez Gilbert Latour ou Gilles de Latour?
Non, Gilbert Latour, votre confrère a un peu écorné mon prénom.
Ma consœur même, puisque c'est Corinne Boyer qui, à Marseille, a signé un article pour le quotidien La Croix à propos de ce cube de 400 grammes que tout le monde connaît, le fameux savon de Marseille, estampillé 72% extra pur. Extra pur de quoi, justement, monsieur Latour?
Et bien en fait, ce savon de Marseille 400 grammes a été défini par un personnage qui aimait codifier, Napoléon Ier. Avant lui, il y avait eu le fils de Colbert. Donc Napoléon Ier a accordé à la ville de Marseille, avec un timbre particulier ayant la forme d'un pentagone, les savons 400 grammes résultant d'une saponification à l'huile d'olive.
Ah. Et l'historique du shampoing, vous l'avez aussi ou pas?
Je trouve que c'est intéressant parce que quand même ça existe depuis le 15e siècle, vous rendez compte, le savon de Marseille. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément fabriqué à Marseille, le savon de Marseille.
Il n'est pas forcément fabriqué à Marseille. Il doit par contre être sur des bases végétales et notamment de l'huile d'olive. Oui, et il est naturel, c'est pour ça que je ne répondrai pas sur les shampoings ou les gels douche.
Mais il n'empêche que, par exemple, à Nantes, on fabrique du savon de Marseille.
Mais je crains fort que les Nantais, historiquement, aient fabriqué du savon avec des graisses animales, ce qui ne peut donc pas être assimilé à un savon de Marseille.
Oui, mais je vous jure que les savonneries de l'Atlantique font du savon de Marseille avec...
C'est à base de sardines, ça sent moins bon.
Avec des huiles végétales et une teneur de 63% de corps gras.
Je voudrais pas empiéter sur les capacités d'un confrère. Il est tout à fait possible de faire du savon de Marseille
ailleurs qu'à Marseille.
Voilà, c'est pas une marque déposée.
Absolument pas.
Vous et le pousse-mousse, ça vient d'où?
Non, on peut mettre du savon de Marseille.
Marketing dans... multinational, monsieur.
Est-ce qu'on peut mettre du savon de Marseille dans le pousse-mousse?
Oh, je pense qu'on pourrait y arriver, oui.
En tout cas, vous, vous êtes président de la Savonnerie du Midi.
C'est exact.
Et un de vos principaux concurrents dans la région, c'est Marius Fabre, c'est ça ?
C'est exact.
Je peux vous dire une chose, votre question était mal formulée, mon cher.
Pourquoi ?
Parce que le savon de Marseille, comme vous dites, maintenant est devenu une appellation qu'on voit un peu partout, et on achète des savons de Marseille qui n'ont pas 400 grammes. C'est pour ça que j'ai pas pu répondre à cette question.
Il a raison, monsieur.
Il a raison, aujourd'hui on peut trouver des cubes.
Il y a des savonnettes qui sont savons de Marseille.
Normalement, le savon de Marseille, c'est un cube. En deux mots, pourquoi ? Il est écoulé sur le sol. Et ensuite, il était coupé dans les deux sens.
Bon, maintenant que nous le savons de Marseille et tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Non.
Oh, ben, elle est bonne, celle-là.
Non.
Oh, mais c'est la plus belle, ça.
Non, Pierre.
Tiens, regarde, il y a des applaudissements étouffés.
Non, Pierre. Oui, Pierre.
Il faut pas faire de le savon de Marseille.
Les auditeurs qui vous savonnettent aimeraient que vous rectifiez et que vous disiez que c'était un très mauvais jeu de mots. On vous remercie en tout cas, monsieur Gilbert Latour, président de la Savonnerie du Midi.
Merci, bonne journée.
Europe 1, on va se gêner.
Dorémy Fassi. Liado.
Bonjour Serge.
Bien le bonjour Laurent. Bonjour à tous.
Salut
bonjour
Serge.
Voilà, vous partez bien loin dans le temps là. Je vois les années 50, 40, 30 et même les années 20 au générique de vos chansons qui se ressemblent.
Ouais, on va faire un peu d'histoire de la musique. En fait, je me propose de vous résumer en 1 minute 26 la naissance du rock and roll à partir du blues. Et tout ça par le biais des plagiats, c'est-à-dire que au départ, il y a un blues qui date de 1927 qui a été copié par un autre gars. Plus ou moins, quelques phrases ont été copiées pour redevenir un autre blues en 1930. Puis c'est devenu un truc country en 1947 pour aboutir au premier rock célèbre mondialement, Rock Around the Clock, qui a été composé en 1952 et enregistré en 1954.
Ça fait comment, Michel, Rock Around the Clock ?
1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, rock. 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, rock.
Vous avez un joli bonnet, Titoff. Je vous avais pas vu avec un bonnet. Faut quand même signaler à la direction de repas que je crois qu'on va finir comme des glaçons, hein, d'ici à la fin de cette émission.
Bon, ben, on va essayer de chauffer l'ambiance.
Avec Jim Jackson, Charlie Patton, Hank Williams et donc Bill Haley and the Comets. On part de Kansas City Blues pour arriver à Rock Around the Clock.
1927. I'm gonna trade my woman for a rocking chair. The blues don't leave, I'm gonna rock away from him. Gonna move to Kansas City. I'm gonna move to Kansas City. I'm gonna move, baby. Honey, why they don't know you. 1930.
I'm gonna show you common women how I feel. Don't get me now a woman before I leave it. I will move it out of town. Then I will move to Alabama. Then I will move to Alabama. May Georgia be our heart.
1947.
Came in last night at 10:30. That baby of mine wouldn't let me in. So move it on over.
Move it on over.
Move it on over.
Move it on over.
Move over, little dog, 'cause the big dog's moving in.
1952.
C'était agréable à entendre de toute façon. Merci Serge. Puis ça nous a permis de danser, de nous réchauffer. C'est surtout ça qui est bien.
Danser le rock avec un fauteuil, je peux vous dire, c'est top.
C'est le rocking chair.
Mais la direction de repas me précise qu'en fait, c'est pour nous habituer à l'Alpe d'Huez la semaine prochaine.
Ah, d'accord. C'est là qu'ils apportent du vin chaud aussi, tant qu'on y est là.
On est déjà dans le froid. Et une raclette.
Et
une tartiflette. Deux. Merci Serge Yadon. On vous retrouve demain à peu près à la même heure.
Salut, d'accord, à demain.
Ah, j'ai devant les yeux un papier signé Richard de Vandeuil, c'est dans l'Express. Un papier intéressant parce que Richard de Vandeuil nous parle d'un site internet où Monsieur Vincent Tondeux recense quelque chose. Je vous demande quoi ? En tout cas, lui, il en a compté plus de 140. Qu'est-ce que recense Vincent Tondeux sur son site internet ?
Des radars ?
Il en a compté 140, plus de 140.
Dans toute la France ?
Pas des radars.
Une collection.
C'est pas seulement au niveau national.
Une collection de quelque chose.
C'est pas une collection.
Au niveau mondial, donc.
C'est alors C'est parfois national, c'est parfois mondial.
C'est les 140 là, c'est au niveau mondial ou national?
Les 140, il y en a au niveau national, il y en a au niveau mondial.
Et c'est sur Internet les 140 choses?
Ça n'a rien à voir avec Internet, hormis le fait
que ce soit référencé dessus.
C'est voilà, des personnes, d'accord. 140 personnes qui...
Non, ce sont pas des personnes.
Ce sont des choses.
Des animaux.
Ce sont pas des animaux, ce sont pas des choses. Ça paraît étonnant, il y en a plus de 140. C'est sûrement le but de l'article de l'Express, c'est de nous dire que c'est quand même un peu trop quand même.
Ah, ah. D'accord, il y en a voilà. Trop. Voilà. Des gros mots?
Non. Et je suis assez d'accord avec l'Express, je dois dire. Et je pense que vous serez d'accord aussi avec Richard de Vindeuil, qui a recensé, donc grâce à ce site internet tenu par Vincent Tondeux, qui a recensé, c'est plus de 140, plus de 140...
Des suicides?
Genre de grève?
Non. C'est un non, truc à... mais déjà...
Ah, c'est 10 jours?
Oui.
Fériés?
Pas des jours fériés.
Des congés maladie?
Non. Ah, je vous vois bien séché sur cette question.
C'est des jours, on est sûr que c'est des jours.
Plus de 140. Oui, des jours ou des... C'est peut-être que jours qui vous trompent.
Oui, peut-être.
Ah, c'est des nuits?
Non.
C'est des 24 heures?
Non.
Des mois?
Des semaines?
Non. Qu'est-ce qu'on dit autrement que jour? On dit...
Journée?
Journée. Bon, voilà, peut-être ça peut vous aider, ça.
Ah, des journées...
C'est la journée du sida, la journée de la femme, la journée
Des journées mondiales de quelque chose.
Voilà. Des journées de...
De quelque chose.
Oui.
De commémoration.
Des journées de commémoration ou de célébration. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Michel Bernier. Bonjour Vincent Tondeux.
Oui, bonjour.
C'est vous qui avez créé ce site internet www.journeemondiale.com. On est bien d'accord qu'il n'y a pas toujours des journées mondiales. Parfois, il y a des journées uniquement nationales.
On est bien d'accord. Il y a toutes sortes de journées. Souvent mondiales, quelquefois nationales, quelquefois internationales.
Et vous en avez recensé plus de 140 par an.
Ça fait longtemps que je ne les ai pas comptées. À mon avis, il y en a plus maintenant.
Maintenant. Et pour tout et n'importe quoi, évidemment.
Pour tout et parfois pour n'importe quoi.
Les journées nationales du fromage, la journée nationale des gauchers, la journée nationale du tricot, non mais je vous jure que c'est vrai, la journée française de l'allergie, le 20 mars, vous avez le droit par exemple à la journée de la francophonie, et il se trouve que parfois le même jour, il y a plusieurs journées le même jour en fait.
Oui, il y a des journées qui se chevauchent, et le 20 mars il y en a trois, c'est exact, oui.
Alors le 20 mars c'est la journée de la francophonie, la journée de la courtoisie au volant.
Et la journée mondiale du compte.
Et la journée mondiale du compte. Oui. Je connaissais
du
pas
compte.
Ça, la journée mondiale
le
du
compte. Compte. Le compte en banque?
Non, du compte. Le 27 janvier prochain, ce sera la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. La journée des lépreux, le 30 janvier.
C'est vieille, ça.
Pardon?
C'est une très vieille, la journée mondiale des lépreux.
Ouais.
Ouais, elle marche plus trop bien, celle-là.
Si, elle marche très bien.
La journée sans viande, évidemment, ça existe
va avec.
Aussi. Sans journée... viande, sans téléphone, sans voiture. Il reste que la journée sans radio, mais ils l'ont pas créée.
Pourquoi pas? La journée de la mer, ce sera le 20 mai. Mais alors, c'est bizarre, il y a la journée de la mer, mais il y a aussi la journée mondiale des océans et la journée mondiale de la mer. Alors pourquoi la journée de la mer n'est pas la même que la journée mondiale de la mer? Il y en a une le 30 septembre et l'autre le 20 mai.
Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'organisme officiel qui définit les journées mondiales, et vous avez des gens qui essayent de créer des journées mondiales, et s'ils ont un peu de retentissement dans les médias, ils arrivent à créer des journées de leur propre...
Bien sûr. La fête de l'océan, c'est mieux que la fête de la mer, parce que t'as pas de cadeau à faire.
La journée mondiale contre la peine de mort, le 10 octobre, et la journée de la Terre, ça marche plutôt pas mal, The Earth Day.
Bah, tout ce qui est grande cause et tout ce qui est écologie, ça marche bien, oui.
Et si on veut créer une journée, par exemple, alors...
Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Tondeux, si on veut créer, je parle de la journée de Titov, par exemple.
J'ai envie de vous répondre, on fait pas, parce que c'est souvent les grandes organisations, genre UNESCO, genre ONU, genre...
C'est l'ONU qui a organisé la journée du tricot.
Alors attendez, je vais terminer. C'est souvent des grandes organisations qui le font. C'est souvent l'UNESCO, l'ONU, les trucs de la santé, c'est l'OMS. Et puis après, vous avez des groupes de pression, des lobbies qui essayent de créer des journées. Voilà. Vous avez des journées qui sont créées par des syndicats professionnels ou des choses comme ça.
Est-ce que la journée babyfoot existe?
Oh, j'en sais rien. Regardez dans le site.
Lance la journée mondiale du babyfoot.
Je vais lancer la journée mondiale du babyfoot.
Alors, il n'y a pas que les journées, il y a les années aussi. Par exemple,
oui,
rappelons-nous que l'année dernière, c'était l'année de la pomme de terre.
Ah oui, c'est vrai.
Oh, non.
Si,
c'est si, bien sûr.
Dites Vincent Tondeux, oui. J'ai pas bien compris, vous, votre site internet qui recense donc toutes ces journées. C'est parce que vous êtes pour ou contre ces journées?
Je suis ni pour ni contre. Je suis j'ai une société qui fait de la création de sites internet, et on a, à force d'entendre à la radio, c'est la journée mondiale de ceci, de cela, on a eu la curiosité de regarder ce qui existait, et on s'est dit, on va faire un site.
Par exemple, et aujourd'hui, vous pouvez me dire, moi, s'il y a une journée, là, aujourd'hui, sur votre site, on regarde à 12 janvier, on sait si...
C'est ce que je suis en train de faire. Le 12 janvier, j'ai rien. J'en ai la semaine précédente, mais j'ai rien le 12 janvier.
Vous avez quoi la semaine précédente?
La journée du national du dépistage de l'obésité infantile. On en a une autre qui était très drôle, c'était la journée mondiale de la Corse.
La journée mondiale de la Corse. Cette semaine, là, par exemple, pour qu'on en parle, le bonjour, qu'est-ce qui est prévu là cette semaine?
La journée sans chauffage.
Cette semaine, on est dans une semaine creuse. Le mois de janvier, il n'y a pas grand-chose.
Monsieur Tondeux, on vous remercie pour ce téléphone sur les journées mondiales.
Merci, monsieur Tondeux.
Bonne journée, la fidèle.
Au revoir.
Au revoir, monsieur Tondeux.
Au revoir, monsieur Tondeux.
Monsieur Tondeux.
Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec, pour la dernière fois cet après-midi, autour de Laurent Ruquier, Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff.
Black Bazar, publié au Seuil, c'est le nom du livre que j'ai confié à Christine Bravo et Jérémy Michalak. Le livre est signé Alain Mabankou. Qu'est-ce que ça vaut que ce Black Bazar, signé par un professeur de littérature francophone, né au Congo, Congo-Brazzaville. Il a déjà écrit quelques bouquins, comme par exemple Mémoire de porc-épic ou Verre cassé. Il a même été prix Renaudot, déjà, Alain Mabankou. Alors, est-ce que vous avez aimé ce Black Bazar, Christine, d'abord?
Mais je me suis marrée, évidemment, C'est le journal d'un Congolais. On apprend que les Congolais sont mieux que les Ivoiriens et que les Camerounais, donc on voit que les mecs se tirent la bourre d'une manière complètement débile. Alors il dit qu'il a eu la Congolaise touch, tu vois, il est pas habillé comme un Congolais, ça a rien à voir. Alors c'est un fessologue, spécialiste des fesses des gonzesses, donc il te décrit fesses de black, hein, il le dit qu'il aime que ça. Et alors, c'est à mourir de rire quand il décrit le cul des blacks, des femmes qui roulent d'un côté. Mais c'est magnifique, cette
description. C'est bien écrit.
C'est vachement bien écrit. Il détaille tout. Le ridicule est réussi parce qu'en fait, c'est un petit con, le mec, hein. Il se fait larguer, mais c'est bien fait, tu vois, parce qu'il va dans les bars pour chasser la gazelle. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est, si tu veux, c'est quand même vachement, vachement stéréotypé. C'est bourré de clichés. J'ai envie de demander à notre ami Fabrice de me répondre franchement. Est-ce que tu te grattes le dos avec tes orteils?
Et pourquoi tu me poses cette question à moi?
Parce que il parle des Noirs et il décrit les Noirs comme des gens quand même assez attardés. Par exemple, il parle d'une nana. Il dit la fille. On pouvait pas se tromper vu comment elle dansait sur la piste. On aurait dit un être qui, au lieu de descendre du singe comme tout le monde, y retournait irrémédiablement. Alors c'est bourré de clichés. Alors moi je sais pas comment je dois le. Si tu veux, moi ça.
Je sais pas, moi c'est Fabrice. Je sais pas comment il doit le prendre.
Mais non, mais
pourquoi lui parler de ça à lui?
Mais non, mais alors par exemple, il te donne des expressions. J'ai appris qu'il y a souvent de faux couples qui roulent les téléspectateurs dans la farine de manioc. Enfin, tout est comme ça. L'expression rouler dans la farine, pas obligé de rajouter de manioc. Alors, il le fait exprès. Mais alors, cette espèce de guerre raciale entre Noirs, que je connaissais pas, d'ailleurs, je savais pas que les Noirs se tiraient la bourre comme ça, notamment avec les Antillais.
Oui, il y a les Noirs, c'est Farad d'un côté, les Noirs.
Non, mais attends.
Askenas de l'autre, par contre.
Non, mais ils sont... Il y a les Français, il y a les Roumains.
Non, mais ils sont d'un racisme entre eux, mais achevé.
Il y a un voisin Antillais qui tient des propos, mais avec des clichés d'un racisme, mais incroyable. Contre son voisin qui, lui, est Congolais.
C'est un roman, en même temps.
Oui, c'est un roman, mais je pense qu'on est très très proche de la réalité.
Une petite guéguerre entre Africains et Antillais.
Ouais, bien sûr.
Mais là, si tu veux, c'est tellement raciste ce qu'il balance sur les Noirs que je sais pas comment le prendre, en fait. C'est très bien écrit, j'étais gêné.
Bah, toi, quand tu balances des choses sur les Roumains, c'est exactement la même chose. C'est une blanche qui fait des blagues sur les Blancs. C'est deux cultures différentes, surtout les Africains.
Michala, comment vous avez trouvé ce bouquin Black Bazar?
Moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est vraiment un voyage, une plongée au cœur de ce que l'auteur appelle la négraille, c'est-à-dire la communauté. C'est lui qui appelle ça comme ça, encore une fois. Je crois que c'est un terme qui est emprunté à Aimé Césaire. Voilà. Donc, c'est une plongée au cœur de la communauté africaine de Paris. Donc, si vous prenez le métro, c'est sur la ligne 4, en gros, entre Châtelet et Château Rouge. Voilà, c'est bien exactement sûr. Cet univers-là. Donc, c'est ambiance Tam Tam, Gris Gris, Boubou, Farine de Manioc, Coiffure Afro et compagnie.
Tissage,
donc le
la sape.
Le héros, c'est, exactement, le héros, c'est un sapeur. Donc
c'est un
le
dandy.
Sapeur, c'est ça, il fait partie de la sape, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Vous savez, c'est ces blagues qui portent des costumes de couleurs, souvent improbables, pas forcément bien taillés, mais que eux trouvent très chic, avec une cravate à motif, avec une tour Eiffel dessus et des Weston bien vernis. Sauf que le problème, c'est quand un black porte un costard vert bouteille, bah, les gens dans la rue le prennent forcément pour l'agent d'entretien de l'RATP. Voilà, donc ça, c'est une des aventures qui arrivent à ce héros. Bon, ça permet aussi, surtout à l'auteur, de parler du rôle de la colonisation, des divisions au sein de la communauté, du racisme entre personnes de même couleur, des problèmes de blanchiment de la peau aussi. Donc il y a des vraies questions sérieuses qui sont en fond. Et donc l'histoire de ce sapeur, le faisologue, est prétexte à parler de tout ça. Moi, je trouvais que c'était très très bien écrit. Ça manque peut-être un peu d'une histoire.
Un bon écrivain.
Il y a pas d'histoire.
C'est écrit en quatrième de couverture que c'est une des voix majeures de la littérature francophone actuelle. Magnifique. Alain Mabankou. Et donc, il publie Black Bazar au Seuil. Et vous le conseillez.
Mais c'est magnifiquement écrit, mais il n'y a pas d'histoire.
Bah, on a offert ce bouquin dans un filet garni à un auditeur tout à l'heure, donc il ne va pas être déçu.
Ah ouais, non, c'est bien.
Tant mieux. Paul Vermus est au téléphone. Bonjour, Polo.
Bonjour à vous. Ça va bien?
Quoi de neuf, Paul?
Bah, écoutez, beaucoup de choses. Hein. Vous savez que le week-end, c'est toujours très, très riche pour moi.
Hein, j'ai des plaintes hein, d'auditeurs, je vous le dis.
À quel propos?
À propos de la rumeur entre Georges Clooney et Paris Hilton. L'histoire.
Qu'ils en savent.
L'histoire d'amour que vous
avez. En savent.
L'histoire d'amour que vous nous avez annoncée la semaine dernière, et nous, bêtement, on a dit mais c'est un scoop, et tous les auditeurs me disent, mais enfin, 48 heures auparavant, on nous l'avait annoncé dans 100% Mag, à la télé, dans des tas d'émissions.
Non, écoutez, soyez gentils de pas me... surtout un lundi, de ne pas remettre ma parole en doute. Hein. Les informations que je vous donne, je les ai souvent 8, 10, 15 jours avant tout le monde.
Ah non, là, j'ai une auditrice qui s'appelle Annie.
C'est très exceptionnel. Hein, vous m'enverrez votre auditrice.
Il faut absolument changer Paul Vermus, car son info... Vraiment. Son info sur Clooney et Paris Hilton a déjà été diffusée sur M6 mardi dernier. S'il est payé à dire des conneries pareilles, moi, je peux le faire à sa place.
Oui, écoutez, me remplacer, c'est pas si facile que ça. Hein. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, Laurent. On est là pour parler des autres.
Non, mais j'aimerais avoir des vrais scoops plutôt que du réchauffé. Quoique du réchauffé là, aujourd'hui.
Ça fait du bien.
On serait content.
Écoutez, vous voulez qu'on commence par la Grande-Bretagne et les princes?
Ah, le prince Harry. Oui. Crée à nouveau la polémique.
Oui, alors je ne veux pas vous parler de ça parce que vous allez me dire, comme d'habitude, Paul, je l'ai lu partout. Alors je vous en parle pas de la polémique qu'il a créée, mais il y a une autre polémique dont on n'a pas parlé. Ah. Il est en train de terminer cette formation de pilote d'hélicoptère de combat, mais parallèlement à sa formation de pilote de combat, il est en train de suivre une cure de désintoxication.
C'est pas vrai.
Car s'il veut devenir officier pilote, il devra freiner la consommation d'alcool. Hein.
Picole beaucoup, le prince Harry.
Vous avez vu, il est tout rouge. Il a ce qu'on appelle en anglais la whisky complexion.
Mais c'est pour ça qu'il y a des bars à son nom, alors.
Il est tout rouge, c'est un roukmout.
Les fameux Harry's Bar.
Ah, oui. Alors écoutez, sur le prince Harry, je crois que j'en ai assez dit, mais je vais passer d'un prince à un autre, et je pense que le prince Albert devrait vous intéresser.
Alors allons-y.
Alors il a quitté quand même la principauté pour un bout de temps, donc finalement, il y a pas de patron actuellement à Monaco, puisqu'il est dans l'Antarctique.
Alors, c'est vrai. On savait ça.
Oui. Vous savez qu'il visite les 26 stations scientifiques.
Ouais, on l'a dit la semaine dernière.
Vous savez, attendez, au lieu de faire le malin comme vous faites en ce lundi. Est-ce que vous savez qu'il se dirige vers l'île du roi George, qui est au nord-est de l'Antarctique?
Ah non, sans savoir.
Est-ce que vous savez qu'après-demain, il va atteindre le pôle sud, ce qui est un exploit, Laurent.
Ah oui.
En 2006, il avait atteint le pôle Nord après 16 jours de marche.
Ouais.
Et là, il va atteindre le pôle Sus. Le pôle Sus.
C'est pas bien ce que vous faites sur le prince Albert.
Le pôle Sus.
J'aime bien ton week-end, Paul.
Paul Vermude.
Non, ça suffit. Bon.
On passe à Obama parce que quand même, c'est bientôt son investiture.
Alors là, j'ai des informations tout à fait intéressantes.
Ils ont même répété son investiture, la cérémonie, on a vu ça ce week-end.
Ouais, on a vu ça avec les télévisions, avec le clone d'Obama. Ouais. Alors,
le clone de sa femme, Michelle.
Oui, j'ai vu le clone de ses deux enfants aussi. Alors, le 20 janvier, Laurent, il y aura une statue de cire, alors non pas au musée Grévin, je suis navré, mais au musée de Madame Tussaud, le 20, dans quelques jours à Londres.
Et pour non, pas de Madame Tussaud, Madame Tussus.
Et pour la première fois dans l'histoire du musée de cire de Madame Tussaud, l'entrée le 20 janvier sera gratuite. Puis habituellement, ça coûte 12 livres. Hein. Alors bon, c'est vrai que le Grévin aurait pu avoir cette idée. D'autre part, Laurent, les 5000 places pour assister au défilé d'investiture...
Se sont arrachés en une minute.
Oui, je sais, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi? c'est pour créer un véritable marché noir. C'est-à-dire que les 5000 places qui ont été vendues $25, Laurent, elles passent maintenant à $500. Et c'est une première, parce que jusqu'à présent, c'était les nantis, les hauts fonctionnaires, les militaires, les gradés qui assistaient au défilé. Là, c'est le peuple, comme vous et moi, Laurent. Alors, le 14 janvier, c'est-à-dire après-demain.
Le peuple, comme vous et moi.
Bah oui, bien sûr. Alors, le 14 janvier, ça, c'est intéressant. Autour de votre table, il y a des gens qui aiment bien la BD, hein. Alors, la célèbre maison d'édition de comics qui s'appelle Marivelle.
Marivelle.
Non, mais j'ai fait exprès pour voir, parce que souvent vous n'écoutez pas ce que je dis, là, c'est bien. Bon, ben, je vous félicite. Eh bien, dans deux jours va sortir, Laurent,
Spider-Man avec Obama. On a vu ça à la télé ce week-end, ouais.
Oui, ah oui, non, mais une seconde. Ce que vous ne savez pas, ben vous l'avez pas lu la BD, mais moi je l'ai lu.
Oui.
Eh ben Spider-Man, alors vous allez me dire c'est pas un scoop, hein, mais Spider-Man a sauvé Obama à la Maison Blanche le jour de son investiture.
Rachida Dati a tiré les rois.
Ouais, elle a tiré les rois. Eh ben elle a pas de chance. Parce qu'elle a pas tiré la fameuse fève. Hein. Alors elle est restée exactement.
Ça c'était l'info du jour, ça.
Oui.
Rachida Dati a tiré les rois où ça?
Alors à la mairie du 7e, à côté de chez moi. Alors je peux vous dire que ça n'a pas duré longtemps. Elle est restée exactement 14 minutes en tout et pour tout. Donc alors la fève, c'est un illustre inconnu qui a eu la fève. Bon, on a applaudi. Elle a fait un petit discours.
Vous étiez là?
Oui, je suis passé, on m'a pas vu, mais j'y étais, oui. Bah, elle se tâche en mettre.
On m'a pas vu, mais j'y étais, alors là.
Non, Laurent, je peux vous dire, vraiment, j'habite à côté. Vraiment, vous pouvez me croire?
Non.
Non, bah, vous avez raison. Bon. Alors donc,
Alors, quel est l'intérêt de cette information qu'elle a tiré les rois, Rachida Dati?
L'intérêt, c'est d'abord qu'elle a pas été reine. Vous voyez, souvent, on met la petite fève dans la part qu'on va donner à l'invité d'honneur, ce qui n'a pas été le cas.
Ah oui.
D'autre part, pour la première fois, elle a quand même parlé de sa maternité dans un petit discours.
Ah, qu'est-ce qu'elle a dit?
Bah, d'abord, elle a remercié pour les dizaines de petits chaussons roses qu'elle a reçus, et j'irais même des centaines de layettes et compagnie. Alors donc, la petite Zara est habillée pour l'hiver, hein.
Vous l'avez envoyée? Christine ou pas votre...
Non, j'attends un petit peu parce que là, c'est noyé là. J'attends.
Attends, le t-shirt Bravo Hollywood, elle l'attend, Madame Dati. Hein.
Non, mais franchement, on ne sait plus où mettre les petits chaussons. Hein. C'est... Il y en a une autre qui est finalement la.
C'est Saint-Paul, pardon de vous dire. C'est vraiment sans intérêt ce que vous nous racontez.
Oui, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est bon, mais je vous dis souvent, Laurent.
Il faut faire revenir Vermus parce que le mec qui le parodie là, c'est pas bien.
Il fait froid chez toi aussi.
Dans 50 ans, quand je serai plus là.
Oui.
Eh bien, heureusement qu'il y a des gens comme
50
moi...
50 ans, tu vois large quand même.
Il y a des gens comme moi qui décrivent ces petites choses de la vie, de la société.
Passons à autre chose, puisque je vois qu'il n'y a rien d'intéressant à dire sur la galette des rois du 7e arrondissement. Ça, peut-être que ça va réveiller et intéresser mes camarades. Vous étiez samedi soir au Paris Bodega pour une soirée Sex in the City.
Oui, il y avait deux soirées où il a fallu aller l'une après l'autre. Alors, soirée Sex in the City, le Bodega, je ne sais pas si vous savez, c'est rue Taitbout. Avant, il y avait une banque polonaise. Et avant cette banque polonaise, il y avait... une maison close. Donc, il y a quand même une atmosphère très, très particulière, très, très libertine dès qu'on entre dans ce lieu.
Ah
et,
bon
chaque, et chaque mois, il y a la soirée Sex in the City. C'est animé par un dénommé Michel Forever. Non, ce qui est intéressant, c'est d'abord, c'est le fameux retour, demandez à Benichou, ils connaissent ça, c'est le fameux retour du quart d'heure américain.
Oui.
C'est-à-dire, ce sont les filles qui...
Ah, Michel le réclamait,
je le réclamais, moi,
voilà,
tout à l'heure.
Et ben, si, alors, le quart d'heure américain, vous l'avez au Bodega, pendant un quart d'heure, les filles choisissent les garçons.
Oui, on connaît, oui.
Oui, on connaît, je vous le dis, puisque vous ne saviez pas il y a deux minutes. Alors, qui y avait à cette soirée? Alors, il y a toujours un mélange un peu hétéroclite, comme ça, il y a les danseuses du Lido qui ont terminé leur performance, qui arrivent, elles sont belles.
Jérémy, ouais.
Comment c'est intéressant.
On les reconnaît à leur taille. Il y a l'éternel Greg le millionnaire qui adore ce lieu. Magloire,
c'est plus homoclite qu'hétéroclite. Hein.
Il y a Jean-Luc Lahaye. Bon, il y a
Jean-Luc Lahaye.
Ah bon.
Ah non, c'est une belle soirée.
Allez, disons, une belle soirée, Laurent.
Il y avait Jean-Luc Lahaye, Magloire et qui d'autre, il a dit? Et Greg le millionnaire.
Bon,
et Michel Forever.
Tout ambiancé par Michel Forever.
Et Michel Forever, il a une ceinture avec.
C'était la soirée de l'année, Paul.
La
soirée de l'année, c'était juste à la même heure, un peu plus loin.
Ah, parce que vous êtes allé aussi.
L'élection de Miss Demonia.
Voilà, au Rivers King, ça je connais pas.
Absolument. Alors les gens qui ne savent pas, Paul, où est le Rivers King, vous voulez... Ben, je vais vous le dire, où est le Rivers King. C'est en face de la maison de la radio. Vous empruntez un petit couloir derrière la station service, vous voyez, devant la maison de la radio, et vous arrivez sur cette péniche. Alors c'est les fameuses...
Ah, c'est une péniche?
Ah oui.
Oui, c'est un grand bateau, hein. Enfin, une péniche bateau, si vous voulez. Hein.
Et alors c'est quoi l'élection Miss Demonia?
Ben, c'est la soirée, c'est la fameuse soirée hebdomadaire qu'on appelle les nuits et la BDSM. BDSM, ça veut dire bondage, discipline, domination et soumission. Voilà.
Ah oui, tout à fait.
Vous pouvez pas arriver comme ça par hasard. Faut avoir la tenue obligatoire, au moins le bas.
Mais alors, comment vous êtes arrivé vers Vermus?
Vous avez les mêmes invités qu'à l'autre ou pas?
Alors attendez, vous devez, c'est soit le cuir, si vous n'avez pas moyen pour le cuir, c'est le latex, si vous n'avez pas les moyens pour le latex, c'est le vinyle. En fait, c'est une très belle fête organisée par un dénommé Francis de Beaubélair, qui fait ça très régulièrement. 477 invités, Laurent.
Mais c'est qui Miss Démonia, alors?
C'est tout cas ça, c'est Vermus.
477 invités, donc on
Miss Démonia, c'est le vrai nom de Vermus,
bien
en
sûr.
Fait.
Mais non, attendez, Miss Démonia, c'est la... c'est l'élu de la soirée. Alors, je vous mets très à l'aise. Vous allez me dire, l'élu de la soirée...
Je suis très à l'aise, oui.
Le vainqueur, Laurent, peut aussi s'appeler Raoul ou Marcel.
Paul, ouais, dans ces soirées sadomaso, il n'y a que des blancs, non?
Mais non, mais...
Les noirs, on s'est fait fouetter pendant 400 ans, ça m'étonnerait que les types reviennent pour en prendre un coup.
On ne peut pas savoir s'il y a des blancs ou des noirs, tout le monde est masqué. En tous les cas, Miss Demadia, cette semaine, c'était un homme. Hein, voilà.
C'était ça, le scoop. Allez, on termine, si vous voulez bien, mon cher Paul, par une info sur Jacques Séguéla.
Figurez-vous que je reçois les cartes de vœux de tout Paris, comme vous, Laurent.
Oui, bien sûr.
Hein, on reçoit des milliers de cartes de vœux. Et j'ai reçu une carte de vœux de notre ami Jacques, assez étonnante. C'est une petite annonce sur papier glacé, sur laquelle on peut lire « À vendre, terrain non constructible, 2 hectares, vue exceptionnelle sur mer, à Calalonga, à quelques minutes de Bonifacio, Corse du Sud, prix à débattre ». Ça vous rappelle un fait divers, un triste fait divers. Jacques avait acheté un super terrain et il n'a pas le droit de construire. Donc il met son terrain en vente, il profite des vœux pour mettre son terrain en vente, ce qui est une excellente idée.
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, il passe une petite annonce en envoyant ses vœux.
Voilà, mais non, mais c'est pas une petite annonce c'est du tout, c'est un gag. C'est qui va acheter un terrain non constructible.
Mais Benichou, si c'est pour
mettre... Mais non, c'est pas une petite, c'est une fausse petite annonce pour rigoler en disant... Vous avez vu ce qui m'est arrivé cette année. Mais il est là. Qui va lui acheter un terrain non constructible?
Écoutez, il aimerait bien s'en débarrasser de son terrain. Et c'est pas complètement
évident. Il sait bien qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Mais, et il rigole avec ça. C'est comme si tu disais, je vends un beefsteak déjà mangé.
Mais pas du tout.
Ou un crayon pré-mâché.
Mais oui, c'est pas...
Miss Démonia, vous m'entendez?
Mais non, je m'appelle Paul Vermus, s'il vous plaît.
Paul Vermus, ouais. Ça va être fini pour aujourd'hui, je crois.
Je crois que c'est une bonne chose.
Hein. Oui, c'est allez, on vous embrasse, à demain, 16h.
À demain, 16h, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.